maison.
Assurez-vous que l'air n'entre pas avant que vous y fermiez vos murs.
Parce que l'air qui entre, c'est de l'argent qui sort.
Contactez Réseau de Vinci, les experts en bâtiment.
Vous voulez vendre ou acheter une maison?
Dormir en toute tranquillité
en faisant inspecter votre maison par les professionnels de Réseau de Vinci.
Pour des conseils justes et précis.
RéseauDeVinci.com. Recommandé CAA.
Avec un nouveau bureau sur la rive sud pour mieux vous servir.
La Relève Radio, c'est la CGMD
96.9, la radio de Lévis.
OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallele.com.
Voici Carole Lozé.
Samedi 5 mai, bon printemps ou presque à tous nos auditeurs et auditrices, malgré la température souvent médiocre, comme aujourd'hui d'ailleurs. Merci d'être fidèle au poste. La grande question du jour est, qu'est-ce qu'un ufologue? En fait, c'est un acronyme du mot UFO, Unidentified, je ne sais pas si je dis bien comme faux, Flying Object, qui veut dire objet volant non identifié. En français, on devrait dire un ovniologue, mais à mon avis, quel mot affreux, c'est vraiment pas beau. Mais bref, l'invention du terme vient du capitaine Edward G. Ruppelt, premier directeur du projet Blue Book en 1952, pour remplacer l'expression populaire de soucoupe volante, puisque, en fait, il ne s'agit pas toujours d'une forme aplatie comme les soucoupes. Parfois, c'est sphérique, en forme de cigare, de diamants, etc. Alors, et l'ufologie désigne a priori toute étude consacrée aux ovnis. Selon Wikipédia, le titre a été utilisé plus fréquemment à partir des années 70. Les enquêteurs militaires sont rarement qualifiés d'ufologues. Même chose pour les enquêteurs qui ont pu travailler dans le cadre de la commission Condon ou pour le CNES, par exemple. Les ufologues sont donc principalement des amateurs. Et lorsque certains d'entre eux sont par ailleurs scientifiques ou professionnels, ils sont ufologues à titre privé. De même, une distinction existe entre les ufologues et certains auteurs et ou passionnés qui ont pu défendre des théories jugées marginales. On parle alors parfois de soucoupistes. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Ça aussi, c'est pas beau pantoute. Mais bref, les amateurs sérieux, il en existe. Je pense à ceux qui font des enquêtes sur le terrain, des recherches approfondies et des comparatifs avec tout autre engin pouvant survoler au-dessus de nos têtes. Comme la science évolue, plusieurs appareils nouveaux genres circulent et qui sont de fabrication tout simplement humaine. Je vous ai d'ailleurs parlé de l'application Carte du ciel à télécharger lors de la première émission. Je vous en présente un autre à l'instant qui va sûrement vous intéresser. Plusieurs croient à tort voir un OVNI quand il s'agit en fait de la Station spatiale internationale. L'application se nomme ISS Detector et très pratique parce que ça vous avertit à l'avance de son passage dans votre secteur. Saviez-vous que la station spatiale passe environ 400 km ou 405, 408, ça joue dans ça, au-dessus de nous et que ça avance environ 7,67 km/s, très, très rapide. Nous l'entendons pas, évidemment, et c'est sûr, à cette hauteur-là, de toute façon, ce qui fait que plusieurs croient que c'est un engin qui ne vient pas d'ici. Sur cette application, on peut y voir sa vitesse, sa hauteur, sa durée de visualisation, sa direction, etc. Vous pouvez la suivre à travers le globe en direct, à savoir où elle se situe à cet instant présent. Donc, ISS Detector pour l'application qu'on peut mettre sur notre Internet, notre téléphone cellulaire. Malgré tous les efforts déployés par les enquêteurs sérieux, il y aura toujours des petits Joe connaissants qui dénigrent le travail des autres sans pour autant avoir fait des recherches poussées dans le domaine aussi large que et faire des affirmations telles que c'est un drone ou un satellite. Aïe, aïe, aïe. Savez-vous qu'un véritable enquêteur a déjà ces connaissances-là? Il parle pas à travers son petit casse. Ça, c'est clair. Les témoins passent souvent aussi pour des cinglés lorsqu'ils racontent ce qu'ils ont vu. Et pour en rajouter une couche, l'enquêteur ne semble pas mieux selon ses sceptiques. Les gens ayant un esprit étroit ou, disons-le, bien fermé, essaient de faire taire tous ceux qui sont ouverts et en les traitant de fous, ce qui n'encourage personne à raconter leur récit en laissant se poser des questions sans pouvoir même comprendre ce qu'ils ont vu ou vécu. De là, les asiles pleins à craquer de gens qui se font interner injustement, tout ça parce qu'ils ont osé parler. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais rien vu que tous ces phénomènes-là n'existent pas. Là, en ce moment même, vous écoutez ce que je dis. Les ondes radio sont parvenues jusqu'à vous et pourtant, vous ne les voyez pas. Pourtant, elles sont là, c'est clair. Mais il est prouvé scientifiquement que l'univers est fait de vibrations et d'ondulations. Ça aussi, c'est sérieux, là. Hein? La science, je sais que la science, les scientifiques n'ont pas toujours raison, mais parfois ils ont souvent tort aussi, pas mieux qu'un ou qu'un autre qui va affirmer ou faire des affirmations d'une chose ou d'une autre. N'en tient qu'à vous, en fait, d'y faire vos propres recherches en consultant les soi-disant scientifiques qui font ces recherches-là et qui prouvent de façon notable la véracité de ce qu'on en dit. Dans le fond, vous allez pouvoir comprendre et démontrer ces dires. Nous tentons de vous prouver par diverses théories, selon nos recherches, qu'un tel ou tel phénomène existe. Maintenant, c'est à votre tour là, de nous apporter la preuve qu'on a tort en utilisant la même forme de recherche qu'on a fait avant de faire vos affirmations. Nous, on vous apporte une preuve que c'est vrai. Apportez-moi la preuve du contraire. Jean-François Primo est en ligne. Allô, Jeff, est-ce que tu m'entends bien?
Ben oui, je t'entends, Carole. Hey, belle intro.
Merci. Comment ça va ce matin?
Écoute, cours beaucoup la dernière semaine. J'ai une ouverture d'école de danse ici ce soir, donc je suis beaucoup dans les préparatifs, mais tu sais que je suis toujours au rendez-vous avec toi.
Donc, tu as aimé mon ouverture d'émission, mais rien à rajouter à ce que je viens de dire. Ça avait du sens à ton humble avis?
Oui, bien écoute, ça fait très, très, très du sens et je suis content que tu mentionnes encore cette vision-là que les gens ont des ufologues un peu. Puis, tu sais, sur toute réserve, là, il me semble qu'on avait tellement un meilleur débat dans les années 90 qu'aujourd'hui. J'en reviens pas. Écoute, il me semble que dans ces années-là, on pouvait clairement discuter du phénomène, que ce soit des enlèvements, que ce soit des observations de ces fameux pans-là, hein, ou même d'une personne qui se dit avoir été enlevée. Et c'est vrai que les gens connaissent pas le travail d'un ufologue. Les gens pensent qu'on affirme à tort et à travers que c'est exactement ça. Les gens ne savent pas que ça prend... C'est un domaine qui est passionnant. On se rend sur le terrain. Mais première des choses, il y a un signalement qui arrive. Hein? Ça vient de où, ce signalement-là? Bon, là, ici au Québec, il faut comprendre que nous avons plus qu'une association ou regroupement qui font ce travail-là de collecter les informations des gens. Après ça, ces informations sont traitées et envoyées dans les régions respectives de ces associations-là. Et après ça, c'est envoyé à un enquêteur. Je préfère plus le terme investigateur, parce qu'enquêteur, ça relève beaucoup plus du secteur de la police. Investigateur peut toujours ramener à l'investigation privée qui est reconnue ici au Canada. Et à ce moment-là, l'enquêteur nous appelle, et vient nous rencontrer en tant que témoin. Puis là, c'est à nous de prendre la donnée terrain. Donc, on cumule de l'information, cette information qui est tellement importante pour monter le dossier. En tout cas, moi, je me rappelle que quand j'étais au regroupement du Garpan, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Et il ne faut jamais prendre un parti, déjà un parti pris. Je crois qu'en tant qu'investigateur, on se doit d'être, dans notre travail, d'être un peu critique, un petit peu réservé, parce que, un, on veut pas influencer le témoin, et on ne veut pas non plus se faire une idée tout de suite préconçue. Il y a beaucoup de choses de prendre en considération quand on fait une investigation. Il y a beaucoup de domaines. Hein. On a les RR1, les RR2, les RR3, les RR4, puis oh mon Dieu, qu'il y en a des RR là-dedans. On va passer là-dedans tantôt, on va faire la différence entre ça. Et quand, qu'est-ce qu'on fait aussi quand il y a des traces au sol? On parlait du fameux cas de Falcon Lake. Je peux aussi ramener le cas de Sainte-Marie-Mont-Noir. C'est quoi une évidence qui est correcte? C'est quoi une évidence qu'on peut se servir avec la science pour montrer, voici, d'après nos rapports, voici ce qu'on a vu, voici ce qu'on a pris comme information. Et maintenant, toujours sur une base personnelle, je crois que c'est à la communauté scientifique de se prononcer là-dessus. Moi, j'ai toujours dit aux gens, sur tout respect, j'adore mon travail, je fais que prendre l'information. Il y a une autre étape qui va suivre après ça. Donc, on joue pas au petit jeu connaissant. Déjà que c'est un domaine qui est touché. Déjà qu'on se fait checker à la loupe, hein, on va pas m'en remettre d'autres. On va pas m'en mettre par-dessus. Et ce qu'il faut aussi, moi, je me suis rendu compte que pas tout le monde, mais une bonne majorité des témoins ont quand même il y a une intervention témoin à faire à un certain degré parce que ces gens-là vivent quelque chose. Et là, on parle de juste observer une lumière, de peut-être juste voir un vaisseau rapproché, hein, très, très, très gros rapproché. Ça peut être voir des entités, mais est-ce que ça peut être voir des entités dans un vaisseau ou voir des entités dans sa chambre? Ça peut être aussi avoir une expérience avec une entité aussi. Ça peut être avoir un enlèvement et se faire ramener dans la chambre. Ou ce qu'on trouve des marques aussi, des traces sur le corps. Donc, le travail d'investigation est beaucoup plus large. Et moi, là, je me mets dans la peau de ces personnes-là qui prennent qui ont le courage d'appeler ces associations-là et de leur donner ces témoignages-là. Parce que moi, il y a un monsieur qui m'a dit, il dit Jean-François, et mon expérience, il y a des gens qui sont très agréables, donc beaucoup, beaucoup moins. Il m'a dit Jean-François, écoute, depuis l'âge de 16 ans que ça dure, je n'ai jamais eu une relation avec une demoiselle parce que la seconde que je vais au lit, j'ai un stress qui embarque. Je ne peux pas être dans une foule parce qu'il y a trop de personnes. À chaque matin, je me lève, j'ai mal à la tête. J'ai des cicatrices partout. Ils viennent pratiquement à chaque jour. J'ai vraiment, vraiment pensé au suicide souvent. Moi, quand quelqu'un me dit ça, j'ai tendance à dire que on ne devrait pas rire de ces gens-là parce que s'il y a des gens qui on a tendance à banaliser ça un peu. Puis on dit, bon, ces gens-là qui vivent des phénomènes, c'est des fous. Mais quand on compare, ce que ça peut avoir comme impact sur les gens, sans aucun doute, je vais dire qu'on peut comparer ça à un viol. Donc, si c'est correct aux gens qui vivent un viol d'en parler, ben je pense que ça commencerait à être. On doit commencer à accepter qu'il y a des gens qui vivent des phénomènes et on doit prendre ça au sérieux et de ne pas banaliser ça et au contraire renforcer et de dire bravo, vous en avez parlé. Maintenant, on va vous aider. On ne peut pas régler votre problème parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit réglable parce qu'il y a des gens que ça change leur vie bien puis d'autres moins bien. Donc, il faut s'ajuster dans l'intervention qu'on va faire avec ces témoins-là.
Tu me fais penser ce matin, c'est parce que je pensais parler un peu de ça. Je vais poser la question aussi en même temps à nos invités en studio qui retiennent ce mot-là. Je veux savoir si eux ont déjà entendu ce mot-là. Je te dirais le mot bilou.
OK. Bilou.
Ça te dit-tu quelque chose? Est-ce que tu as déjà entendu ça lors d'une investigation quelconque où des gens ont pu te dire qu'on appelle ça des bilous?
Non, c'est toute l'appellation française. Moi, je serais curieux de voir combien de points au Scrabble, ton mot.
Mais ça n'existe pas, en plus. C'est ça qui est le pire. J'ai fait une vérification dans le dictionnaire. Je te dis ça parce qu'il y a un enfant de 5 ans. Ça, c'est arrivé il y a plusieurs années, là. Mais à l'âge de 5 ans, cet enfant-là se réveillait en sueur tous les nuits ou presque. Il disait voir des bilous. Il décrivait l'être qu'il y avait en avant de lui.
Ah, des bilous!
Oui, il appelle ça des autres. Lui, il appelait ça des bilous. D'où vient le nom, je ne sais pas, mais qu'un enfant de 5 ans dise « Il y a un bilou dans ma chambre, il a les yeux verts. » Et il voit clairement le bilou qui n'est pas très grand, la façon dont qu'il en décrit.
Bilou, c'est une petite souris grise avec des grands yeux. Et c'est dans une émission de télé à la... Mon Dieu, je pense que c'était... ça jouait il y a quelques années. Là,
OK, mais moi, ce que je te parle, là, ça date d'à peu près, je te dirais, 40 ans. Il n'y avait pas cette émission-là à cette époque-là. Là. Je me demande s'il y avait encore la TV. Il y avait la TV, mais en noir et blanc, là. Mais les émissions d'enfants, il n'y en avait pas qui parlaient de bilou. Moi, en tout cas, je ne me rappelle pas de ça. Puis pourtant, mais c'est parce que cet enfant-là a dit ça longtemps, là, pendant longtemps. Et je comprends pas. Tu sais, il y a des histoires d'enfants qui font des découvertes ou qui se font comme vraiment traumatisés par ça, voir des phénomènes de ce genre-là, mais... Il appelait ça un bilou. Fouille-moi pourquoi. J'ai jamais entendu aucun enquêteur nommer ce nom-là, puis ou investigateur, comme tu dis, là.
Mais c'est bizarre de voir aussi à quel point que les enfants, ils vont s'exprimer dans les plus purs des termes. Moi, je me rappelle d'une investigation que j'avais demandé à l'enfant. Puis il faut tellement... Tu sais, on n'est pas des psychologues, on est rien de ça. On n'a pas de PhD sur le mot. Fait que, tu sais, tout ça, là, avec un petit peu de retenue, tu sais. Moi, j'avais demandé au petit garçon, parce qu'il avait la misère à mettre des mots, de mettre des expressions sur ses mots. Fait que j'avais demandé, je disais, est-ce que tu peux me faire un dessin? Puis il m'avait dessiné un petit gris, tu sais. Mais, tu sais.
Attends un peu. Un enfant? T'as dessiné un petit gris? On s'entend qu'un enfant fait des petits bonhommes allumettes aussi, là. C'est tout peut ressembler à un petit gris. Ils ont toutes des grosses têtes puis des bras maigres. Fait que, je sais pas, là, faut faire. Il y a une nuance, il faut faire attention.
Oui, non, je sais, là. Mais tu sais, il y a une tête pour faire. Excuse-moi, tu vas faire un petit bonhomme à lumière. Faire un petit bonhomme à lumière, une tête en ovale avec des grands yeux en ovale, puis marquer genre, viens dans ma chambre à chaque soir, ou à peu près, là. Tu sais, puis vraiment, là, s'exprimer en ce langage-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça? Puis tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait si la DPJ se rentre là-dedans?
Ben, c'est sûr.
C'est vraiment touché, là. Puis, tu sais, en tant que parent, là, on gère comment avec ça?
C'est sûr.
Ben oui, mais attends, là, ça peut être aussi de la paralysie de sommeil. Ça peut être aussi les enfants.
Ça peut être le grand frère aussi. Ça peut être le grand frère qui rentre dans la chambre, mais lui, il dessine, mais qui est déguisé ou il fait noir, il ne voit pas clair. Ça peut être n'importe quoi.
C'est ça. Mais quand on regarde, là, je prends ma charge, là, worldwide, là, comme on dit, là, combien de personnes enlevées ou contactées, ça commence comme ça. Moi, là, beaucoup de gens que je regarde, qui disent, moi, j'ai vu une boule de lumière. OK, c'est le fun. C'est un beau témoignage, mais techniquement, ça nous sert un peu à rien, là, ceux-là. Là, parce qu'il n'y a pas de matière, c'est juste une boule. T'sais. Mais quand on gratte un peu dans le témoignage, puis là, qu'on se rend compte un peu que, ben, tu sais, moi, ça, finalement, j'en ai vu un autre, puis là, j'ai mais il y a une partie de ma vie que je me rappelle plus, puis que là, après, ben, hey, je me rappelle que j'avais vu ça, puis là, tu grattes, puis tu te rends compte que la personne a eu des visites sur une base constante à partir de l'âge de 8 ou 9 ans.
Mm-hmm.
Puis là, je vais prendre un cas qu'on parle beaucoup dans le domaine de l'ufologie présentement, le cas de Sylvie P, où je pense que à vers 12 ans, là, j'ai pas le dossier devant moi, là, mais à peu près, là, elle sort dehors pour jouer dehors, et puis là, boum, blackout, elle revient, il est juste le soir, mais elle se rappelle avoir, je pense, déjà vu cette lumière-là auparavant. Donc, on dirait qu'il y a un genre de moment, de modus operandi dans l'approche de ces ovnis-là. T'sais. Là, je sais qu'on s'est parti un peu, mais c'est juste pour montrer au public un peu comment ça peut être large, puis comment qu'on gère avec un genre de cas comme ça quand on arrive sur le terrain. Puis là, je parle pas de bon, tout le monde connaît le fameux cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir qui a été investigué par Christian Page et puis François Bourbeau. Mais il faut aussi qu'on arrive puis qu'on travaille, qu'on prenne la fameuse trace au calage. On la calcule, on la mesure, puis qu'on prenne des échantillons. Eux ont pris la bonne décision d'envoyer des informations dans son laboratoire. Puis tu sais, on parle aussi de la reconstitution géospatiale du phénomène, parce qu'en bowling, on essaie de monter un dossier le plus étoffé possible, au cas où qu'on ait à le soumettre à quelconque entité scientifique. Donc, voilà, c'est complexe, mais écoute, c'est tellement passionnant. Mm. Moi, j'ai pris un petit break d'ufologie parce que je fais de la radio avec toi, mais éventuellement, je vais revenir. On part pas de ce domaine-là. On aime ça ou on n'aime pas ça. Moi, je suis un passionné. Puis c'est complexe. C'est touché, là.
Mais oui, c'est complexe.
Le phénomène change, évolue aussi. L'humain avance, évolue aussi, mais c'est de voir à quel point que il y a des connexions qui sont un peu partout là, là-dedans.
Mm. Là, on parle depuis 20 minutes déjà. Ben, je vais être obligée d'aller à une pause parce que là, mon prochain invité, on va parler tellement longtemps avec que je veux pas embarquer sur... je veux pas y mettre de la pause à tout bout de champ. Fait qu'on va faire une petite pause. Puis, c'est ça, on vous revient dans 2 minutes. Bougez pas. Fait qu'on vous revient dans 2 minutes.
96.9. Le cinéma débarque encore une fois à Lévis pour la 2e édition du Festival interactif de cinéma de Lévis. Vous aurez la chance de visionner des films de tout genre, assister à des conférences avec des pros, participer à des ateliers sur le cinéma et manger ben du pop-corn. Visitez le ficlfest.com. ficlfest.com pour plus de détails sur la programmation. Vivez l'expérience cinéma à Lévis du 17 au 19 mai prochain au cégep de Lévis. C'est un rendez-vous!
Vous avez le goût de liberté et d'évasion? Les écoles de conduite technique vous invitent dès aujourd'hui à suivre vos cours de moto et scooter sur la rive sud comme sur la rive nord. Nous avons des horaires flexibles et des cours disponibles 7 jours sur 7. Bientôt 16 ans, informez-vous sur notre programme de cours de conduite automobile offert dans nos 12 succursales. Vous pouvez vous inscrire et assigner vos cours en ligne sur technique.ca ou nous contacter au 418-529-3868. Technique, grand formateur de conducteurs.
www.technique.ca. Bootcamp pour une bonne cause. Vivez une expérience hors du commun. Le Carrefour des enfants de Saint-Malo vous invite le 26 mai prochain au Forge Gym de Québec. Formez une équipe de 5 personnes et venez suer pour une bonne cause. Sur place, des entraîneurs certifiés vous feront vivre une expérience d'une heure d'entraînement complet. Vous n'êtes pas fan de l'entraînement? Supportez l'équipe des jeunes du Carrefour qui participeront à ce défi d'une heure. Tous les fonds recueillis serviront à soutenir les activités du Carrefour des enfants de Saint-Malo. Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, visitez la page Facebook Bootcamp du Carrefour des enfants de Saint-Malo.
La niche à Luna, la niche à Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens et chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe-gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
La niche à Luna.
88-700-0600.
Pour plus d'informations,
www.lanichealuna.com.
C'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Pour vos besoins en matière de sécurité, pensez Sécurité Accès. Basé à Lévis depuis maintenant 20 ans, Agence Sécurité Accès est la référence en matière de sécurité sur la Rive-Sud, également présent à l'échelle de la province. Marco Lefebvre, propriétaire et gestionnaire, assure un service de qualité en étant proche de ses clients comme de ses agents. Optez pour un service de sécurité personnalisé adapté à vos besoins, quels qu'ils soient. Entreprise aux divers services, entre autres.
Agence Sécurité, de premier soin, d'unité canine, de signaleur, de patrouilleur et beaucoup plus.
Ils sont en recrutement constant en passant. Joignez-vous à l'équipe. Sécurité Accès, votre référence en matière de sécurité. www.sécuritéaccès.com. Sécurité Accès pour une protection répondant à vos attentes. 418-838-8804.
418-838-8804.
Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis.
La radio à Lévis.
« Alors, bonjour, on a Spielberg qui me regarde depuis tantôt en ondes. Mais oui, on a notre Steven Spielberg ici en studio. Mais j'ai aussi ma petite sœur Hélène qui est venue nous rendre une petite visite. Puis en même temps, elle est avec nous ce matin et elle a décidé d'offrir un petit cadeau aux auditeurs. Alors, parmi tous les messages, textes que nous recevrons, écrivez-moi votre nom par contre, parce que c'est pas évident pour moi de savoir avec un numéro de téléphone là, de qui vient le message, pour que c'est ça. Comme ça, je vais pouvoir vous nommer à la fin de l'émission. Ma sœur Hélène va vous tirer un soin de pied complet d'une valeur de 70$ à tous ceux qui donnera son nom ici par texto. Et autrement dit, ça serait un soin de pied à votre domicile ou à son entreprise qui se nomme Les Doigts de Fée située à Sainte-Croix. Je vous garantis qu'avec un tel soin, ça va vous remettre sur le piton parce que ça sera pas long. Ma sœur Hélène est aussi auxiliaire comme familiale et sociale de métier, en plus d'être couturière professionnelle. Fait que le doigt puis la touche, elle l'a. Vous êtes en de bonnes mains, soyez-en assurés. Alors, je vous souhaite bonne chance. Puis, si vous avez des questions aussi pour mon prochain invité qui est Jean Cazot, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le message texte au 581-500-1196, 581-500-1196 pour rejoindre notre invité Jean Cazot. Alors, justement, il y en a vu de toutes les couleurs, notre ami Jean. Il a plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de l'ufologie. Il est mon guide, mon professeur, mon ami. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Bonjour, Jean Cazot.
Allô, ça va?
Oui, ça va bien. Je vais baisser ce son-là. Comment se porte mon maître retraité de la radio?
Bon, ça va. Moi, j'ai pas de problème. Ma petite vie se déroule avec tous mes petits projets. Puis, je m'ennuie pas de... Je m'ennuie pas du terrain, de ce côté-là, j'ai assez donné, alors je fais plus d'enquête, là. Je me suis retiré complètement de ce milieu-là, non pas par dépit ou attends une minute que je lève ça, Stéphane. Bon, non pas par dépit ou parce que j'étais tanné, mais disons que je suis fatigué, puis aussi... moi, je me suis concentré très tôt dans ma vie d'ufologue au dossier de rencontres rapprochées 150 mètres et moins. Alors, ça limite pas mal mes interventions. Tu sais, moi, les fly-by, les petites lumières qui passent, puis je me suis jamais occupé de ça parce qu'on perd du temps. Parce que qu'est-ce qui est important à retenir dans l'ufologie? Le seul but de l'ufologie, À moins que tu sois un weekender, là, tu sais, quelqu'un qui fait ça juste pour s'amuser, là, parce que c'est comme un hobby, ou construire des petits avions en plastique, là, ou faire de l'ufologie, parce que ça existe aussi. Mais quand c'est un mode de vie personnel, tu sais, que tu le prends personnel, ça, l'ufologie, là, les conséquences de ça, c'est que il y a une raison à ça, il y a un but, là. Tu fais pas ça pour rien, tu fais ça pour quoi? Et moi, ça a toujours été, et ça restera toujours, pour que le message passe, pour que l'information soit diffusée, pour que le travail de conscientisation se fasse, pour qu'on creuse la question pour les gens, de sorte que la moitié de la réflexion est faite. Après ça, ils ont juste à juger. Alors, mais pour ça, il faut travailler très fort. Et j'ai réalisé très tôt, moi je faisais des émissions de radio à CKCV. Là, ça rajeunit personne, ça.
Ben, CKCV, c'était à Lévis, ça? Jean-François qui rit en arrière.
Comme je viens de te dire, ça rajeunit personne, parce que tu sais même pas c'est quoi, toi.
Oui, ça me dit de quoi, c'était pas
ça. Non, t'es rendu à Lévis.
Là, non, mais c'est pas à Lévis, ça, c'est FLS qui était...
C'est FLS qui était à Lévis, c'est ça.
L'autre était à Sainte-Foy, ouais. Québec, là.
Oui, non, CKCV était à Place Diouville.
Oh mon Dieu, je suis pas dans le champ.
En haut du Capitole.
OK.
OK? Quand on faisait une nouvelle, t'entendais... Ça, c'était un pigeon. C'était les pigeons qui venaient roucouler sur les arches. On laissait les fenêtres ouvertes, puis ils venaient roucouler là, puis chier sur mes nouvelles aussi, faisait tout. Rentrer en studio pendant qu'on lisait les nouvelles. Ça, je veux dire, regarde, c'est pas de la légende. Là, je te parle des années 70 à peu près, tu sais, 70. Alors, quand j'allais à CKCV dans les années 66-67, j'allais là avec mon bicycle, je descendais, puis j'allais faire l'émission avec Pierre Champion, qui était son morning show du week-end. Alors, lui, il faisait de 6 à 9, et moi, je faisais de 6 à 9 avec lui. Okay. J'étais son co-animateur, imagine, j'avais 17 ans. J'étais son co-animateur et je répondais à n'importe quelle question au téléphone. C'était de l'open line. On faisait de l'open line dans ce temps-là. Fait qu'on prenait les appels des auditeurs. Puis on répondait aux questions sur l'ufologie. Puis je me pognais régulièrement avec des gars de sciences de l'Université Laval.
Ah oui?
Dont un qui m'haïssait pour mourir, qui s'appelait Claude Frémont. C'était le docteur Frémont, qui était très connu dans le milieu à l'époque. C'était un physicien de l'Université Laval. Puis il haïssait ça m'entendre parce que je débattissais toute sa physique, tu sais. Puis il aimait pas ça, tu sais. Il acceptait pas que je dise des choses, tu sais. Alors, bref, tout ça pour te dire que j'ai commencé très tôt à diffuser mes affaires. Mais je me suis rendu compte que d'enquêter sur des petites lumières qui se déplacent, des petites lumières au loin, puis ça donne rien, ça. Ça fait pas avancer le... Alors, pourquoi aller passer 4 heures avec un témoin pour une christie de lumière dans le fond de son champ, tu sais. Donc, je me suis concentré sur les cas rapprochés, qu'on appelle les rencontres rapprochées du premier type, et vraiment rapprochées, là. Alors, moi, contact. Là, pour enlever toute ambiguïté, dans le sens que on peut se tromper. Hey, je me suis déjà levé à 4 heures du matin, moi, parce que le gars me disait qu'il y avait une armada d'OVNI au-dessus de chez lui, au-dessus de son champ. Il en avait des dizaines et des dizaines. T'sais. C'était énervant, ça, à 4 heures du matin. Mais tu sais, quand tu as 17-18 ans, tu y vas. Je veux dire, à 68, je disais, voilà, on t'a recouché. Mais à mon âge, à cette époque-là, ben, j'ai dit, tu sais, alors j'ai pris mon bicycle, mon vélo. J'ai fait 30 kilomètres.
Ça se trouvait dans quel coin, ça? C'est pas dans le coin de Bellechasse?
Place ou... Port, je suis dans Port-Neuf, là.
Ah, oh, dans Port-Neuf, OK.
Anyway, ça fait que là, je suis parti. Puis quand je suis arrivé là, j'ai inventé des sacres. J'en ai inventé. Parce que ce que le gars voyait, c'était des étincelles d'un feu de camp. Mais il voyait pas le feu de camp parce qu'il était derrière une butte.
OK.
Puis il avait supposé y avoir personne, là, parce que c'est sous sa terre. On était sous sa terre.
Excuse-moi, je ris.
Alors lui, il était là, puis il disait, regardez les ovnis. J'ai dit, c'est pas des ovnis. C'est des petits bums qui sont en train de saccager ton champ à prendre un coup, puis ils vont fourrer le feu dans ton blé d'Inde. Tu devrais faire quelque chose, en tout cas. On est allé, puis effectivement, c'était tous des jeunes qui étaient sous-morts. Il y avait des filles effoirées sur des gars là-dessus, c'était quelque chose, tu sais. Fait que le party était pris. Et ça inclut les maudites grosses étincelles qui montaient, puis c'était un bois qui était très... Il y a un bois avec l'écorce. C'était des étincelles, mais c'était pas des petits, c'était des gros, des tisons, là, des gros. Puis tu sais qu'ils s'en allaient en feuilles mortes de même en montant, là. C'était un spectacle, c'était extraterrestre en mort. Alors, ça m'a guéri vite. De ce qu'on a, les rencontres éloignées. Alors, okay. Je me suis plus jamais occupé de ça, puis je me déplaçais plus. Je me déplaçais uniquement pour les gros dossiers, c'est-à-dire quand tu as ça d'en face, là, puis qu'il n'y a plus d'ambiguïté possible, ça vient d'ici ou ça vient pas d'ici, ou le gars ment. Moi, il fallait que l'alternative à la proposition extraterrestre soit un mensonge, un canular pur et simple. C'est, il l'a vu, et c'est ce qu'il a vu, c'est ça. Ou il me monte un bateau. Tu sais, il est en train de me monter un bateau. La raison pour laquelle je faisais ça, c'est que, d'abord, premièrement, j'étais seul. Je travaillais... au début, j'étais seul. Après ça, j'ai eu des enquêteurs à pu finir. Parce que la SRPM, on couvrait tout le Québec. C'est pas compliqué. Dans le magazine que j'avais mis sur place, qui était la revue AFA, il n'était pas question de publier rien d'autre que des gros dossiers, des gros cas. Okay. Et dans ces années-là, il y en avait. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Dans les années 70.
70. Après ça, ça s'est arrêté. Je te dirais, à partir de 75, 76, ça s'est mis à diminuer considérablement, puis ça a repris 15 ans plus tard. Il y a eu une baisse, un peu comme les cycles solaires.
Tu sais. Oui.
Il y a eu une baisse, et là, on est dans une baisse grave aussi, là, actuellement. Alors, parce que, imagine, moi, je recevais du courrier. S'il y en a qui ne savent pas ici, il y a des jeunes ici en studio. Du courrier, c'est comme du courriel, pas de L. Ouais.
Avec courrier, un timbre.
Puis il y a comme un timbre. C'est un petit tableau miniature qui était sur le coin droit. Pis c'est une petite enveloppe, puis c'était blanc. OK? Puis là, il fallait que tu déchires ça, puis tu sortes la petite lettre, puis tu fallais la lire, puis c'était écrit à la main. Bon. OK.
Oh my God.
Alors, le courrier était... Alors, je recevais dans les années 70 plus de courriers qu'aujourd'hui je reçois de courriels. Et c'est facile, un courriel.
Ben oui, c'est plus facile. Ça coûte pas une
cent. Ça coûte rien, puis c'est rapide. Tu fais ça tout de suite. J'en reçois plus. Ça fait 10 ans que je reçois plus de courriels de gros cas. Des gros cas intéressants, là, tu sais. Alors, il y a une baisse. Puis je le note aussi dans l'actualité ufologique internationale. Là, tu le vois, là. Et tu vois aussi qu'il y a des cas, les gens en parlent, mais regardez la date, là, tu sais. Ah, une femme a vu ça en 85. Ah, en 90. Ah, en 2007. Ah, tu sais, c'est pas... Il y a des récents, là, tu sais, bon. Alors, moi, je m'occupais juste des gros dossiers parce que, pour moi, c'est important que le lecteur soit subjugué et qu'il soit obligé de prendre une décision et de dire « j'y crois ou j'y crois pas ». Moi, il fallait que j'accule les gens au pied du mur. Et c'est pour ça que j'ai travaillé toutes ces années-là à le faire. J'ai mis des livres sur le marché. J'ai pas arrêté. J'ai arrêté avec toi et Bruno le 3 mars dernier. C'est là que j'ai arrêté, que j'ai pris la décision formelle de ne plus me déplacer pour faire des enquêtes ou même au téléphone ou ailleurs.
OK. Mais écoute, tu t'intéresses quand même à ça, c'est juste
non,
que
non, tu... Non, non, c'est sûr, je continue de m'intéresser jusqu'à ma mort. Mais puis je vais diffuser encore de l'information s'il y a lieu. Mais je me dis que si en 2018, alors que ce phénomène-là est connu sur la planète depuis le milieu des années 40, si on n'a pas avancé plus que ça, au niveau, mettons, on ferait un sondage là, international, là. Si on n'a pas avancé plus que ça dans la conscientisation, on n'avancera jamais.
Effectivement, il faut que les gens évoluent, mais...
Ah, mais il n'y a pas d'évolution là-dessus.
Mais c'est sûr.
Puis là-dessus, ton collègue là, de tout à l'heure...
Moi, Jean-François.
Oui, disait que les débats étaient plus intéressants à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. Il n'y en a pas de débat aujourd'hui.
Non.
Il n'y en a même pas.
C'est vrai.
Les gens qui ne s'intéressent pas à ça, n'écoutent pas ton émission, ne lisent pas mes livres. Comment veux-tu les atteindre?
Mais par contre, là-dessus, je te dirais que ici à CGMD, tu étais à l'époque avec ton émission des Faits maudits, la plus grosse émission de radio qui était le plus écoutée. Est-ce que tu le savais?
De la station?
Oui.
Oui, je sais.
Tu as battu des records et je vois encore, là, je le vois encore, là, présentement, la hausse de cote d'écoute est intense. Puis les gens disent ne pas s'intéresser au phénomène, mais ils écoutent.
Non, mais attention, attention. Il y a un chiffre au Québec, si on devait déterminer comment est-ce qu'il y a de gens qui croient à l'existence de visiteurs provenant d'ailleurs, mettre ça en termes polis, on dit, lui, c'est qu'au volant. Si on se pose la question, moi, je te dis, je pense, avec mon expérience, que ça frôle peut-être le 15-20%. OK?
Ouais.
Ça inclut ceux qu'on a vu. Ceux qu'en ont vu, ça.
Ah, mais tu vois, moi, le 15 à 20 j'aurais dit pour les cas réels qui sont inexpliqués, mais de là à dire que 15-20 de...
Qui croit?
Oui. C'est pas beaucoup?
Non, c'est très peu. C'est très peu.
Je peux me permettre une petite intervention rapidement?
Oui.
Souvent, on a tendance à oublier que il y a toujours, en termes de l'humain, il y a des croyances religieuses qui sont profondément lié à ça. J'ai fait une enquête sur un cas qui était à Jérusalem. Et puis, là-bas, la notion de voir des ovnis ou des entités, c'est juste ça, là, c'est inconcevable, spécialement ce qui est pour une personne musulmane, d'avoir un message à ces entités-là, c'est impossible.
Ah ouais,
la personne préférait juste sauter la vie que juste y croire. Donc, il y a un aspect social aussi, c'est une barrière. Hein,
c'est une barrière tellement épaisse,
oui,
solide, qu'elle... les gens ralentissent pas sur l'autoroute du savoir quand il arrive un ovni. Ils breakent, puis ils s'arrêtent, puis ils descendent du char, puis ils partent à la course.
Oui, absolument.
Alors, c'est ça, là. La barrière est là, là. C'est terrible. Moi, je peux te dire que dans mon métier, en tant qu'animateur de radio d'affaires publiques, où je traitais de problèmes au niveau du gouvernement, puis au niveau des affaires, puis du droit, puis de la justice, je parlais pas d'ovni, là. Je faisais ma job d'animateur de radio des affaires publiques, un peu comme je ne sais pas, moi, quiconque ici fait ça, là.
Mm-hmm.
Et j'ai fait ça pendant des années et des années et des années. La journée où j'ai commencé à parler d'OVNI. OVNI!
Ah, mon Dieu, j'aime pas le mot. Ah,
juste ce mot-là. Il y a des commanditaires, des clients de la station, qui ont demandé à la direction... de m'arrêter de faire ça.
Ben voyons
parce
donc.
Que oui. ça rendait pas crédible l'émission sur laquelle ils investissaient avec des spots qui passaient pendant mon émission à moi.
Ben voyons donc.
Ils ont demandé officiellement à la station, ça serait-tu possible de dire à Cazot de pas parler de tout ça? Personne croit à ça, c'est ridicule. Voyons donc, es-tu devenu fou? Puis ils sont sérieux. C'est tabou, un peu comme l'homosexualité l'était dans les années 30. Mmh. Les Noirs étaient tabous. Tu savais que c'était... est-ce que tu savais qu'il y a une émission aux États-Unis qui roulait à pleine porte jusqu'à ce qu'ils engagent un Noir pour danser?
T'es-tu sérieux?
L'émission a plongé parce que Lipton... qui était la soupe Lipton,
ouais,
qui commanditait l'émission, ont retiré toute leur...
Encore aujourd'hui?
Non, dans ces années-là.
OK, je pensais que c'était...
Dans les années 50. Okay, mais c'est ça, je t'illustre ce qui est un tabou.
Ça n'a pas de bon sens.
Homosexuel, des hommes qui s'embrassent, on en a à pleine porte. À un moment donné, c'est rendu, il y a des séries, on se dit, c'est une série là-dessus, tu sais, parce que c'est rien que de Tokyo. Correct, ça ne me dérange pas, mais c'est pour te dire que ce tabou-là a été brisé. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, deux hommes qui s'embrassent à Radio-Canada, oublie ça.
Non, c'est un fait.
Oublie ça, là.
C'était même criminel.
Oui, ça l'était avant que Trudeau s'en mêle. C'était l'homosexualité, savais-tu?
Absolument.
Avant que Trudeau passe le bill omnibus, en 68, 69, je pense, l'homosexualité était un crime.
Je ne savais pas ça, moi.
Oui.
J'étais jeune encore à cet âge-là.
Hein? Il y avait une série qui s'appelait Le Paradis terrestre à Radio-Canada.
Oui.
Le Paradis terrestre.
Deux gars se tiennent la main. C'était la dernière émission de la
c'est
série.
C'est ça. Parce que Bruno me dit que l'émission Le Paradis terrestre, puis je me souviens de ça, il y a un moment donné, il y a deux hommes qui se donnaient la main. Ça a mis un terme à la série.
Ben voyons.
C'est ce qu'on appelle des tabous terribles, là, extrêmement solides. Ben, les ovnis sont encore comme ça, 60 ans, 65 ans après l'avènement de Arnold, là, au-dessus des montagnes Rainier dans l'État de Washington. C'est la même, le tabou est le même.
Par contre,
ça n'a pas changé.
Ça vient aussi de l'enfance, à partir de l'enfance, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des parents qui vont dire à un enfant, « Maman, j'ai vu un fantôme dans ma chambre, tu ne parles pas de ça, voyons donc. »
C'est ça.
Tu vas te faire enfermer. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ces affaires-là. Ou qu'un enfant va dire qu'il a vu soit un fantôme ou un ovni ou quelque chose du genre.
Ouais. Les fantômes, ça passe. Parce que j'ai travaillé dans tout. Moi, j'ai tout fait dans ce domaine-là.
Ça passe pas tant que ça.
J'ai travaillé dans le paranormal, dans le métaphysique, puis je me suis occupé de réincarnation, puis aussi puis les maisons hantées, puis j'en ai fait des... et ainsi de suite. C'est le fantôme, il est mieux reçu que l'ovni.
Ouais.
Parce que le fantôme est plus ancien. historiquement parlant, dans le sens qu'on le retrouve dans l'Antiquité. On parlait beaucoup dans l'Antiquité de spectres d'esprits qui apparaissent, les dieux qui apparaissaient aux hommes, et ainsi de suite. Donc, cette notion-là est pas pire. Puis, si grand moment, pendant un party de famille, dit à tout le monde, « Là, là, je voulais vous dire, les enfants, là, j'ai vu votre grand-père. » Il est mort, tu sais.
Okay, oui.
J'ai vu votre grand-père, il est venu me voir dans ma chambre. Il n'y a personne qui va rire.
Exact.
Il n'y a personne qui va. Ils vont dire, êtes-vous sûr de ça, le grand moment, tu sais? Oui, c'était lui. Puis là, on va respecter ça. Ça ne veut pas dire que les gens vont y croire, mais ils vont respecter ça. Ça va passer.
Ou ils vont penser qu'elle est en pleine démence.
Oui, mais ça dépend comment ce qu'elle dit, là.
Mais il y avait un certain respect de la famille dans le temps, hein, quand c'était grand-maman qui était, ou grand-papa qui était la personne suprême de la famille, qui tenait la famille ensemble. On se rappelle aussi que à Montréal, dans là, quelques années, il y avait la religion qui contrôlait tout. Donc, il y avait cet aspect-là aussi social.
Oui, mais tu fais rien si grand-maman avait dit « J'ai vu une soucoupe volante », là, tout le monde serait parti à rire.
Grand-maman,
vous me chauriez, vous. Ben oui. Ben voyons donc, grand-maman, des soucoupes volantes, grand-maman qui voit des martiens. Puis là, elle rirait avec tout le monde, puis ainsi de suite, ça n'aurait pas passé. Ça ne passe pas. Les ovnis ne passent pas. Point final.
Oui, c'est sûr que.
J'arrive pas dans ce métier-là, là. Ça fait 52 ans que je suis dans ça, je te le dis, là.
Oui, je te
vois. Ça passe pas. Ça passe pas.
Mais à un moment donné, j'espère, ma foi du Seigneur, que ça va comme.
J'ai écrit des livres sur les ovnis. Ça se vend chez ceux qui aiment bien parler d'ovnis. Fait que c'est pas avec ça que tu changes de char. Mais les livres que j'ai écrits sur l'esprit, la réincarnation, puis ces affaires-là, pouf! Ça a levé.
Ça
a levé. Oui.
J'ai un petit problème avec la vision de la science par rapport à ce phénomène-là. Si on recule un peu dans les années 80-90, on avait notre fameux psychiatre John Mack, pardon, qui était quand même une personne très haut placée, qui a été mise sur le spotlight, qui a été capable de faire une grosse convention, ce qui a ramené beaucoup de professionnels de la santé mentale. Ils ont fait beaucoup de recherches. Il y a même un livre qui a été, après 4 jours de conférence, un gros, gros, gros livre qui a été écrit, qui était sur, qu'est-ce qui était les enlèvements.
Oui, oh, c'est D.B. Bryan qui a écrit ce livre-là.
Exact. Et je ne comprends pas aujourd'hui que c'est...
Pas
que,
plus. Que,
non?
Non, qu'il y a pas plus.
Une ouverture d'esprit. À ce temps, c'est encore de la maudite pilule.
John Mack.
Chez vous, tac, 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 merci, bonsoir.
John Mack était le fondateur de la chaire universitaire de Harvard. C'est difficile de trouver plus qualifié que ça dans le domaine de la psychiatrie. C'est difficile, là. Il était honoré, il a reçu un prix Nobel, un prix Pulitzer pour un livre qu'il a écrit. Gars, c'est quelqu'un, là. La journée que Bud Hopkins lui a écrit pour lui dire, Dr. Mack, j'aimerais ça que vous veniez voir mes gens. Ils disent qu'ils se sont fait enlever par des extraterrestres, et ainsi de suite. Et j'aimerais une confirmation. Je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Je les place sous hypnose. Lui, c'est un peintre, un artiste peintre, et ainsi de suite. John Mack a refusé d'y aller. Ça ne l'intéressait pas. Après ça, il a décidé... Hopkins ne l'a pas lâché, là. Il ne lâchait pas, tu sais. Bud Hopkins, en passant, c'est un nom qui est très connu en ufologie, mais pas au Québec.
C'est vrai.
Et là, Mac a fini par y aller. Il a décidé d'y aller voir ces patients-là. Alors, il s'est rendu à New York. Il s'est installé avec Bud Hopkins, avec une session, puis il l'a regardé opérer, il l'a regardé faire, puis il a écouté ce que ces gens-là disaient. Tout de suite, au départ... Mac a fait la déclaration suivante. Je suis peut-être en face d'une nouvelle pathologie parce que mes connaissances dans le domaine des pathologies CSS, c'est bon, il n'y a rien qui correspond à ce que je vois là. Ça, c'est pas quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ces gens-là ont vécu ce qu'ils disent. C'est clair, c'est pas une maladie.
Mais venant d'un connu. Psychiatre, en plus.
Alors, il s'est dit, c'est une maladie inconnue. Je vais donc travailler là-dessus. Et il a remercié Hopkins, il est retourné chez lui à Cambridge. Et là, il a commencé à faire des recherches lui-même sur ses propres patients qui venaient le voir. Il y avait des chasseurs de tête là, qui allaient chercher des gens qui prétendaient avoir été enlevés. Et les gens qui venaient à son bureau, puis là, il procédait à... C'est un psychiatre, un des plus grands psychiatres américains, qui travaillait sur ces gens-là. Il a écrit un livre qui s'intitule « Dossier extraterrestre ». Ça n'en dit long. Et aussitôt que ce livre-là a sorti, tout le collège de Harvard, tous ses collègues ont voulu le foutre dehors, le traduire en justice, l'humilier, ils ont tout fait. Le recteur a ordonné à Mac de mettre un terme à ses recherches. Imagine, on est supposé être en science, là.
Oui.
Il a ordonné de mettre un terme à ses recherches. Ce qu'a fait Mac pendant 4 ans. Jusqu'à ce que le directeur de la faculté de droit de Harvard, puis si tu veux devenir avocat, puis être considéré comme être sorti de la meilleure école de droit au monde, si tu vas à Harvard. Alors imagine le recteur de cette faculté-là. Il s'est écœuré, puis il a mis en demeure toute l'université de Harvard de fermer sa gueule, de laisser Mac travailler, qu'ils avaient « no ground for prosecution », tu sais, rien là, pour l'attaquer, lui. Ils ont été forcés de le faire, mais le recteur est allé plus loin. Il a même dit à ceux qui l'accusaient « aidez-le donc dans sa recherche ». Participer à sa recherche. C'est intéressant, ça, cette affaire-là d'extraterrestre. Il y a quelque chose, là. T'sais. Lawrence Rockefeller, multimilliardaire, quand il a vu ça, qui est un passionné d'ufologie, qui a rencontré Hillary Clinton et qui en a discuté très sérieusement avec elle et son mari, qu'on sait être Bill Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque. Lawrence Rockefeller a dit à Mac, « Sors donc de là, là. » Tu fais rire de toi, viens-t'en avec moi. Je te donne les fonds nécessaires pour partir une organisation de recherche. Tu vas être le boss, personne ne va venir t'écœurer, puis tu as autant d'argent que tu en veux pour financer toutes tes recherches, des chercheurs, des sites, de l'équipement, que c'est no matter what, le rêve d'un ufologue. Et va de l'avant avec ça, mon homme. Il l'a fait. Il a fait passer les tests les plus ardus, les plus révélateurs sur des gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres sont aussi sains que toi puis moi. Quoique, le sommes-nous faisant cette émission? Je n'oserais pas le dire. Mais ils sont sains d'esprit. Ils n'ont aucun problème. Ils sont moins fuckés que la moitié du monde. Ils sont corrects. Le seul problème qu'ils ont, ils ont été enlevés par des extraterrestres. Et regarde, Mac a écrit 2 livres. Pas rien qu'un. Le deuxième sur est incroyable. Passeport pour le cosmos, qui a été finalement traduit en français. J'ai correspondu avec John Mac. On s'entendait à merveille. J'ai collaboré avec lui via un psychologue qui était à Ottawa à l'époque, qui était Howard Schachter. J'ai travaillé avec lui. Et on était sur le point là, de faire... Moi, je me préparais à aller le rencontrer, là, puis à faire des choses ensemble. Et c'est là qu'il est mort. Il s'est fait tuer par un gossou à Londres. Et en 2004, ça a été fini. Mais John Mack, à lui seul, aurait dû faire pencher la balance de l'ufologie mondiale. Ça n'est pas arrivé.
Ça, c'est dommage. C'est vraiment...
C'est rien passé de plus que John Mack ait été là ou qu'il n'a pas été là. L'ambiance publique, c'est nul, c'est zéro.
En parlant d'un autre personnage qui, d'après moi, a eu un impact considérable sur la scène ufologique, c'était M. Lear, ce fameux chirurgien qui a été capable de retirer...
Oui, mais beaucoup moins, Jean-François, beaucoup moins.
Oui, beaucoup moins, mais je veux dire, en termes... on fait juste prendre en considération des gens de science en tant que tel, il y a quand même eu un certain impact. Pas autant, mais je veux dire, ça commence tranquillement pas vite là, à rentrer là, dans le domaine médical, dans le domaine de la conscience, puis tu sais, d'arrêter de prendre ce fameux mot-là ovni. Hey, ça fait peur, ce mot-là.
Je comprends que ça commence, Jean-François, mais es-tu capable de m'expliquer pourquoi il y a juste Denis Lévesque qui m'invite?
Ben, il t'aime bien.
Non. Oui, ben oui, mais je veux dire, on n'est pas des grands chums, là. Puis c'est pas commandité, cette affaire-là. Là. Tu sais, je veux dire, je le paye pas, puis il me paye pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a que Denis Lévesque qui parle d'OVNI dans une émission mainstream.
Sans trop rire.
Mainstream, ce que je veux dire par là, c'est que c'est gros, là. C'est TVA. C'est Radio-Canada, c'est V à la rigueur, si on peut appeler ça mainstream. C'est V. Ensuite de ça, c'est les grosses stations de radio québécoises, les grosses stations. Le Journal de Montréal, de Québec, Le Soleil, La Presse, Le Devoir, ça, c'est du mainstream. Il en parle jamais, J-A-M-A-I-S, jamais, sauf Denis, c'est le seul. C'est le seul. Est-ce que c'est normal?
Non, c'est pas normal. Les médias sont frileux. Mais non, c'est pas normal. Les médias sont frileux parce que, justement, comme tu parlais tantôt, les publicitaires, ceux qui font la publicité, vont-tu vouloir embarquer dans...
Merci à Raël pour ça. Un gros merci. Oui, un gros merci à toutes les zigotos qui se sont amenés en onde avec des déclarations ridicules, des folies. On a eu notre lot au Québec. Dont Raël, évidemment, qui a été le pire, et qui fait que à l'émission Le Tricheur, chose Jodoin,
oui.
À un moment donné, pose la question, tu sais comment ça marche, il y a des questions. Qui est l'auteur du livre Certitude ou fiction sur les objets volants non identifiés? Moi, je suis là, j'écoute ça comme un codin. Puis là, je lève la main, je dis, c'est moi, Christ.
Oh boy.
Mais la fille répond, ben voyons, Guy, c'est Raël. Tu sais, il est parti d'ici depuis 1000 ans. Le gars, là, il n'est plus dans le portrait, on n'entend plus parler. Il est encore là dans l'inconscient collectif. Et quand tu parles d'OVNI, d'extraterrestre, t'es un raélien.
Ben oui. Bon, sais-tu que j'ai déjà été approchée par eux? J'ai reçu un courriel parce que je m'intéressais au phénomène OVNI. J'ai reçu un courriel qui est tombé dans mes indésirables et qui est resté dans les indésirables d'ailleurs, qui m'invitait à me joindre à l'équipe des Raéliens pour...
Parce moi, Raël m'a déjà dit à moi, personnellement...
Ah, t'as déjà parlé à Raël?
Oh, j'ai déjà parlé à cette affaire-là. Il était assis avec son habit de sofa chez Ikea, là. Puis j'ai juste dit que je faisais par qui j'étais, je faisais ci, je faisais ça. Il m'a regardé avec un mépris typiquement français, puis deuxièmement, typiquement raélien. Personne ne voit d'OVNI ou d'être extraterrestre sans que je le sache.
Ben voyons.
Là, la pensée, venons chier, m'est venue très fort dans très fort. C'est venu très, très fort en dedans de moi. Très fort. Mais je suis un gars poli, je ne l'ai pas dit. Je ne le dirais même pas en nom. Mais je ne l'ai pas dit.
Tu viens de le faire.
J'ai-tu fait ça? J'exige une... je veux qu'on...
On va faire un bip.
Oui, je veux un bip. Je veux un bip. Je ne veux pas qu'on m'entende dire qu'il m'a fait chier, le gars. Parce que vraiment, là j'ai compris à qui j'avais affaire. Là, mm-hmm. Mais ça a tué l'ufologie, ça.
Bien, sûrement.
Ça l'a tué, ça l'a achevé. L'autre affaire qui l'a achevé, ça, les gens sont pas au courant ben de ça, mais c'est ici à Québec, c'est lorsqu'il y a un type qui a dit qu'il s'était fait assurer par une compagnie d'assurance que s'il se faisait enlever par des extraterrestres, il recevrait une somme. La presse.
Arrête.
Non, j'arrête pas.
C'est sérieux?
La presse de Montréal l'a joué. Ils l'ont joué, ça.
J'ai jamais entendu.
Oui. Ils l'ont joué, puis ils l'ont joué fort.
Non, mais...
Quand ça a sorti, puis que le gars a ri des journalistes, puis qu'il a dit, c'est pas vrai, je vous ai eu, vous êtes tout... Moi, je me souviens très bien. C'était un dénommé Samson, je pense, qui s'appelait, c'était le rédacteur en chef de la presse, en tout cas, un des gros noms de la presse. Je l'ai appelé, on s'est parlé. Il m'a dit, Monsieur Cazot, vous ne verrez plus jamais le mot OVNI dans ce journal-là. C'est terminé. Je me suis fait prendre une fois, je ne me ferai pas prendre deux fois. C'est fini. Anidi. Imaginez, moi, 1997.
Tabarouette.
Et depuis, je ne l'ai pas vu non plus. Sauf que c'est le seul journal qui a printé, mais il ne devait plus être là, lui, ce journaliste-là, qui a fait l'histoire de l'hôtel Bonaventure.
Ah, OK.
C'est le seul. Le seul média qui en a parlé, c'est lui.
OK. Ah, ben tiens, on va y aller tout de suite. On va aller à la pause parce qu'il est rendu midi déjà. Alors.
Oui, mais tu parles tout le temps.
Désolée, je vais me taire. On va à la pause et on revient.
You're now listening. 96.9.
La radio de Lévis, la station du Mont-Fly. Here we go.
Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus.
Oui, 50$ tout inclus.
Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca.
Redbeardsurvival.ca.
Bonjour à vous tous, ici le capitaine Jack Sparrow. Je vous invite à la fête de la famille de Lévis les 9 et 10 juin au centre communautaire Le Carrefour, dans le secteur Saint-Rédempteur. Il y aura sur place des jeux gonflables, maquillage chromatique, yoga et zumba familial, un labyrinthe hanté, des canons mousse, des jeux de kermesse. Les mascottes de la Pat-Patrouille seront là également.
Pat-Patrouille, Pat-Patrouille.
Plusieurs exposants seront sur place, ainsi que de nombreux spectacles sur scène, dont Dan Cowboy, Naomi Turcotte, l'affaire Ketchup et moi-même Jack Sparrow.
Jack Sparrow.
Il y aura aussi de la restauration à faible coût et des food trucks. Un cinéma en plein air sera sur place également. Les informations complètes se retrouvent sur le site internet fêtefamillelévis.com. La fête de la famille les 9 et 10 juin, présentée par la ville de Lévis.
fêtefamillelévis.com.
Venez me rencontrer, Moussaillon, je vous attends en grand nombre.
Pensez à Ninette, ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, à Ninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. À Ninette.ca. 581-984-3680.
Alerte emploi.
Maçonnite recrute. Nous sommes à la recherche de journaliers. Vous avez des habiletés manuelles. Vous êtes polyvalent, vous êtes bon dans le travail d'équipe et vous êtes disponible pour un travail de soir ou de nuit.
Maçonnite.
Ça tombe bien, nous avons 15 postes à combler dès maintenant pour notre usine de Saint-Romuald. Vous serez amené à effectuer différentes tâches, de la préparation des composantes pour portes, à la coupe de bois, en passant par l'assemblage de portes d'acier et de fibres de verre, ainsi jusqu'à la palettisation des portes pour l'expédition. Maçonnite offre une gamme complète d'avantages sociaux et des salaires compétitifs. Pour postuler, via courriel mgagné@maçonnite.com.
mgagné@maçonnite.com.
Ou sur place, au 445 1ère Avenue Lévis-Saint-Romuald, G6W5M6.
Maçonnite.
Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus.
Oui, 50$ tout inclus.
Amenez la famille, les amis et les collègues pour réserver vos place www.redbeardsurvival.ca.
Redbeardsurvival.ca.
Voici un traiteur original et surprenant pour un événement privé ou professionnel. L'équipe de Cuisine du Marché, Cuisine de rue, à tendance carnivore, s'occupe de tout. Quel que soit le projet, le camion se déplace là où vos événements se déroulent. Cuisine du Marché Mobile Food Truck vous propose un menu personnalisé 100% Wagyu Québec et une équipe prête à vous servir qui s'adapte à tous vos besoins. Contactez le chef propriétaire Hugo Bernier au 418-836-5999 ou visitez cuisinedumarché.net.
Cuisine Boulangerie-Marché.net.
La Fromagerie Victoria, c'est les déjeuners, la poutine, le fromage. Mais c'est aussi un bar laitier de tout premier plan.
Ouvert plus de 8 mois par année.
Alors posez-vous pas de questions, venez tout de suite vous délecter de nombreuses saveurs de crème glacée et de notre grande variété de desserts glacés. Accompagnez cela de notre célèbre caramel maison ou de notre onctueux chocolat belge. La Fromagerie Victoria vous attend pour vous sucrer le bec.
www.fromagerievictoria.com.
La niche Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe-gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
La niche Luna,
88-700-0600. Pour plus d'informations,
www.lanichaluna.com.
Dingue de comment tu peux descendre.
On a plus de munitions.
Passe-moi la radio. Allô.
96.9. Rappliqué.
On a plus de matériel.
Nous avons besoin de renfort. Soutien aérien maintenant.
Viens 96.9.
Salutations en même temps aussi à mon ami, notre ami Jean Morissette qui nous écoute. Il m'a annoncé ce matin qu'il y avait le nouveau journal saisonnier que l'AQU, l'Association québécoise de l'ufologie, ont commencé à faire ça. Il va être disponible à partir de samedi prochain, soit le 12 mai. Vous pouvez recevoir une copie en PDF en vous adressant à l'AQU à commercialvideotron.ca. N'oubliez pas aussi que c'est demain qu'aura lieu la conférence de Sylvie Boucher à l'hôtel L'Ambassadeur de Québec à 13h30 au 3401 Boulevard Sainte-Anne à Québec et que vous devez réserver vos billets pour votre place via son site internet à sylvieboucher.com. Et je vous rappelle aussi, si vous avez des questions pour notre invité Jean Cazot, vous pouvez nous partagez vos commentaires ou vos questions au 581-500-1196 par texto au 581-500-1196. On parlait de quoi tantôt,
Je veux juste finir un point, puis après ça, je vais te laisser aller sur tes questions, mais il y a un point important que je veux amener aussi. J'ai étudié de très près, pendant toutes ces années-là, la nature du mur de résistance face aux ovnis. Mm-hmm. De quoi est-il fait, ce mur-là? C'est évident que l'opinion des scientifiques aussi est très importante dans l'esprit des gens. Mm-hmm. Les gens qui sont pas allés à l'université, qui n'ont pas fait d'études en sciences, ainsi de suite, ont une admiration non dite, face aux scientifiques, mais qui est là. Ils se disent, ah, tu sais, un physicien qui parle à la radio ou à la télévision a 100 fois plus de crédibilité que n'importe quel politicien. Tu sais? Ou que n'importe qui. C'est un physicien, c'est un peu. Hubert Reeves fait des conférences, il remplit. Tu sais? C'est la même chose pour l'autre, là, Payette, l'astronaute. Là. Bon. Alors, ces gens-là ont énormément de crédibilité parce que ils n'ont pas un programme politique, ils ne viennent pas chercher d'argent nulle part dans la poche des gens, puis ils ne font pas de promesses. Ce sont des gens de science. On les respecte. Un peu comme autrefois, on respectait les soutanes. Tu sais, c'est à peu près le même principe. La science est une autre forme de religion, d'ailleurs. Alors, les scientifiques ont développé un tic nerveux quand vient le temps de parler d'OVNI, ou de paranormal, ou de métaphysique, ou ainsi de suite. La raison est simple, c'est que les scientifiques considèrent que la réalité s'arrête là où eux sont rendus. Alors, il faut les imaginer sur une autoroute, l'autoroute du savoir, il faut les imaginer comme des petits Christine Mononcle de 75 ans, qui avance pas, puis qui louvoient dans le milieu de la route pour pas que tu dépasses.
Toi, tu me fais rire, c'est comparatif.
Non, mais c'est facile à comprendre. T'as envie de le tuer. Moi, en venant ici, demande-là à Bruno, il y en a une espèce d'innocente de colonne qui était sur Laurier, elle roulait à 30. Calvaire, c'est une, je m'excuse, là, mais avance, tu sais. Je l'ai klaxonné, je l'ai bipé, j'ai failli la kicker dans le derrière. Avance! J'ai pas de patience avec ce monde-là. Puis finalement, elle n'a pas avancé plus. J'ai dépassé ça à droite. Puis en tout cas, bref, la science est comme ça. Elle n'est pas pressée, ils ne sont pas vite. Il n'y a pas de vie. Oublie pas, là. Sur le plan scientifique, Carole, la vie dans l'univers, il n'y en a pas.
Bien, pourtant.
Intelligente ou pas? Non! Sur le plan scientifique, j'ai dit.
Oui, c'est ça.
Il n'y en a pas. Les pouvoirs psychiques de l'homme, oublie ça, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. La réincarnation, oublie ça. Même la vie après la mort, oublie ça. Ton cerveau s'éteint, c'est fini. Pour la science, la science, elle est très lente.
Parce qu'ils ont appris ça comme ça, ils montrent ça comme ça à l'université.
Mais c'est correct qu'ils le fassent comme ça, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, comme si les scientifiques n'étaient pas aussi rigoureux qu'ils le sont, nous ne serions pas en ondes.
Ben, si,
il n'y aurait pas de poste de radio, il n'y aurait pas de technologie, il n'y aurait pas de téléphone cellulaire, il n'y aurait pas d'automobile, il n'y aurait rien. Si la science avait été lousse, vache, paresseuse, puis let's go, on y va, et on serait encore dans nos cavernes à se garrocher des cailloux. Alors, la science a ses mérites, des mérites incroyables, mais elle a ses limites. Le seul problème, c'est qu'elle nous les impose. C'est ça le problème.
Ouais.
Alors, si tu demandes à Payette, si tu réussis à y voir la face avec ses cheveux, là, si tu lui demandes... Ah, c'est parce que je l'aime pas, hein? si tu lui demandes ce que c'est que l'affaire des ovnis, ben, tu sais la réponse qu'elle va te faire. C'est des bouseux de campagne qui, le soir, se promènent puis voient ça. Alors, nous autres, c'est pas... C'est quelque chose qui te... Fait que, non, moi, Je l'aime pas.
J'en ai les yeux.
Et c'est la même chose avec l'autre, là, le porte-parole du planétarium, là, qui je sais son... comment tu l'appelles, là?
Chastenay.
Chastenay, j'y ai demandé, moi, carrément, à TVA, on était en entrevue, puis il était là, puis j'étais là, puis on parlait d'extraterrestres. Puis il s'est mis à se moquer du monde, à se moquer d'eux autres. Les paysans du Moyen-Âge voyaient des croix dans le ciel. Ben aujourd'hui, ils voient des ovnis. Tu sais, c'est prendre le monde... Et c'est prendre les gens du Moyen-Âge aussi pour des épais. Parce que, je veux dire, t'hallucines pas comme ça. C'est un astronome, le gars. Tu sais, là, je lui ai demandé, j'ai posé une question. J'ai dit, as-tu déjà rencontré un témoin une fois dans ta vie? Tu sais, t'asseoir avec, tu sais, puis prendre un papier, un crayon, puis parce que les pads n'existaient pas dans ce temps-là. Puis, il posait des questions, voir ce que c'est, ce qu'il a vu, le laisser parler, le laisser s'exprimer. Tu sais, as-tu fait ça une fois dans ta Christie de vie?
J'imagine que la réponse était non.
La réponse a été non, j'ai pas besoin de faire ça.
Ah, déjà en partant, c'est comme je viens de fermer la porte.
Alors, mais ça, c'est un scientifique. Alors, il est respecté. C'est regrettable, il est respecté. Donc, ça, c'est la première raison du résultat. L'autre résistance, c'est l'ignorance. Causé par ça, les gens ne s'informent pas. Ils ne savent pas que John Mack existe. Ils ne savent pas toutes les recherches de Sturrock. Peter Sturrock, ça, c'est encore... Ça bat John Mack, ça. Ça, c'est encore plus extraordinaire ce qu'a fait Sturrock dans les années 90. Personne n'en parle. Tu le connais-tu?
Non,
ça n'a pas été traduit au Québec. C'est ça qui arrive aussi. Tu sais, l'ufologie, ma fille, c'est en anglais que ça se passe. C'est pas en français. C'est en anglais que ça se passe.
Comme alors, CNN. C'est
ça. Puis Fox, ben, surtout. C'est
aussi.
Bon, alors, l'autre obstacle, c'est le non-vécu.
L'expérience.
Le non-vécu, c'est dans le sens, les gens qui n'ont pas vu, ils ne croient pas.
C'est ça.
Parce qu'ils se disent, pourquoi lui aurait vu ça, puis pas moi? Moi, j'ai un chalet, je suis le lac, puis ça fait 30 ans que j'ai mon chalet, puis je suis là tous les étés, je regarde dehors, je regarde dans l'air, je vois rien. C'est réglé, ça n'existe pas. Monsieur n'a pas vu, donc ça n'existe pas.
C'est ça.
Ça, c'est la norme. La norme, ça, c'est pas québécois, ça, c'est mondial.
C'est ça.
T'sais. Alors, il y a du chemin à faire. Moi, je suis fatigué. Il y a des jeunes qui prennent la relève, tant mieux, mais je vois pas quand est-ce qu'un jour on parlera de ça. Maintenant, je termine là-dessus. Il y a un autre obstacle. c'est eux autres. C'est eux autres.
Qui veulent pas que ça
qui
se fasse.
Qui se font pas.
Oui, c'est
ça. S'ils le voulaient,
ben oui.
S'ils le voulaient, ça fait longtemps que ça serait réglé.
À cause d'eux autres, on passe des caves. Là,
mais ils ne le font pas. Ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, mm-hmm. savent très bien ce qu'ils font et ne font rien pour être vus clairement, de façon définitive. Ils se sont peut-être essayés à Montréal, en 90, au-dessus de l'hôtel Bonaventure.
Oui.
Regarde ce que ça a donné. Un article dans la presse, une photo floue, parce que le gars est arrivé trop tard, et aucun journaliste ne s'est présenté malgré le buzz qu'il y avait sur les appareils radio de la police.
Et ceux qui avaient des photos, ceux les ont fait enlever.
Oui. Où est-ce qu'ils sont, ces photos-là? Où est-ce qu'ils sont les photos des F-18 qui sont venus jouer autour? Mmh. Où est-ce qu'ils sont, ces photos-là? Mmh. C'est fini, ça. Alors, regarde.
Les hautes autorités aussi, ils ne veulent pas.
Alors, si eux autres, même quand ils se montrent, ne réussissent pas à tirer l'attention, comment veux-tu que Ticu Caso réussisse ça? Mm. Ou qui d'autre? Mm. Alors, on est pris dans une espèce de en tout cas, on n'en sort pas. Moi, je suis pas découragé, mais disons que je me fais plus d'illusions. Je me suis déjà fait l'illusion qu'un jour, ce sujet-là deviendrait comme hard, tu sais, un vrai là, un mainstream. Là. Mm-hmm. Non.
Ben moi, je trouve que tu as du front, petit cul caso. Oh, tu as du front de dire...
Tu avoir du front pour un petit cul pareil.
Tu as du front pour un petit cul. Hey, mais, non, mais tu as du front d'avoir fait ça comme ton émission ou quand tu vas à Denis Lévesque et ta façon d'être, ta façon de répondre et tout ce que tu as amassé comme matériel.
J'ai
ou comme...
pas le choix, c'est ça qu'ils m'ont dit de faire, je l'ai fait.
Ben, en tout cas, quand tu dis « on », qui « on »
Deux autres.
OK, bon, ah, tu vois.
Ça, moi, je l'ai dit.
Bon, ben justement, ça va être une... Ça
va être rebelle de ce que j'en pense. J'ai écrit un livre dessus.
Ben justement, on va en reparler de tes livres dans pas
très longtemps. Non, mais je dis pas ça pour parler de mes livres, là. Mais je fais juste dire, je l'ai écrit, alors je te l'annonce pas, là. C'est pas nouveau, ça. Moi, c'est ma mission de vie depuis l'âge de 16 ans.
Juste parce qu'on dit ça, on passe pour encore plus cinglé.
Ben, j'en suis heureux.
Ben moi aussi. Sérieusement.
Ben oui.
Je plains quasiment celui qui n'aurait jamais rien vu. Parce que il y a une petite...
Il semble qu'il manque quelque chose.
Oui, c'est ça.
Moi, j'en ai tellement vécu dans ma vie là, que j'en veux encore. Mm. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, je ne sais pas. Les autres ne trouvent pas leur vie plate parce que... Ils ne trouvent pas leur vie plate parce que ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si tu n'as jamais vécu... Si tu n'es jamais allé te baigner en Floride l'hiver... Ça te manque pas. Mm-hmm. Il va y pas. Par exemple, si tu y vas, tu vas vouloir tourner.
C'est juste que plus tu le vis vieux, plus tu as des chances de faire dans tes culottes. Fait que je le souhaite qu'il fasse
de quoi,
ça.
Tu fais pas dans tes culottes non, en allant te baigner en Floride.
Non, je te parle de voir des phénomènes.
OK, on n'a pas la même chose.
Si vous me permettez, je trouve ça un peu dommage si on prend l'exemple du planétarium. De ce que M. Caso vient de mentionner. Si on va au planétarium aujourd'hui puis on regarde, parce qu'il y a une photo de la fameuse de l'OVNI de la place Bonaventure qui est en display au nouveau planétarium. Et imaginez-vous donc quelle est l'explication pour cette fameuse photo-là donnée au grand public. Et là, la personne n'a jamais lu le rapport de Gwyneth Haynes, mais vu qu'on est de la communauté scientifique, nous, on sait de quoi qu'on parle, on met une belle photo sur le mur du planétarium et devinez l'explication pour expliquer le phénomène.
Ouais, les réflexions des projecteurs de la piscine?
Il y a ça, mais c'est encore plus absurde que ça. C'est encore la maudite aurore boréale.
Ils ont même dit que ça pouvait être des voitures dans une côte qui éclairait, puis ils étaient stationnés dans une côte qui faisait ça. Il y en a une couple qui ont dit ça.
Non, mais aurore boréale, je veux dire, c'est tellement mouvoyant, ondulant, alors que ça, c'était fixe.
J'ai un témoin qui va venir justement à l'émission d'ici cet été, en juin, là, puis que lui, il a vu l'engin. Il a vu la texture.
C'est de l'arrogance... Les scientifiques sont capables d'une arrogance incroyable. Alors, écoute, je me suis battu avec ces gens-là toute ma vie. Et puis, à un moment donné, ben là, j'en ai eu assez parce que j'ai un bon ami à moi qui est docteur en physique nucléaire, puis c'en est un scientifique. Et il me dit tout le temps, L'ouverture d'esprit chez les scientifiques, c'est la même chose que chez les non-scientifiques. Il y en a qui en ont, mm-hmm. il y en a qui en ont pas. Mm-hmm. Des gens, des scientifiques intelligents, puis pas intelligents, il y en a aussi.
Ben oui.
Tu sais, tu peux être pas intelligent puis réussir en science. T'sais.
Ben oui.
Bon, puis il dit, et finalement, c'est pas Émile Victor qui a raison. Un gars qui est scientifique en Antarctique, en Suisse, c'est pas Émile Victor, a dit, il y a deux sortes de scientifiques. Il y a ceux qui font des recherches et qui découvrent. Puis les autres, ils enseignent ce que les autres ont découvert.
Ouais.
Et ils ne cherchent pas.
Non, c'est
donc,
ça.
Ils ne trouvent rien. Et c'est ceux-là qui parlent le plus.
Mm.
Les petits professeurs.
Mm-hmm.
Tu sais, un professeur d'université, mais... il fait juste enseigner ce gars-là. Il ne fait pas de recherche, il ne fait pas rien. Il fait juste enseigner ce qu'il y a là. Sauf que moi, en 69, on m'enseignait que le proton, le neutron puis l'électron, c'était les particules élémentaires les plus petites existantes dans l'univers. Pendant qu'à New York, il y a un gars qui recevait son prix Nobel d'avoir découvert les quarks puis et toutes les autres particules beaucoup plus petites la même année.
C'est
et quand
comme
j'ai...
pour la vitesse de la lumière. Là.
Pardon?
C'est comme pour la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière en disant que c'était le point de référence, la vitesse la plus rapide. Puis avec les expériences au CERN, ben cette vitesse-là a été brisée. On peut aller encore plus vite que la vitesse de la lumière.
Sauf que c'est récent, ça.
Oui,
c'est
récent.
Ce que je veux dire, c'est que l'affaire des quarks, c'est en 69. Puis dans les cégeps, ils enseignent encore que ils n'en parlent même pas. C'est ça que je veux dire. Dans les écoles secondaires, on n'enseigne pas encore. Peut-être là, maintenant. Mais dans les années 90, on n'enseignait pas encore sur les quarks. Alors,
c'est comme
le prof de physique, là, c'est, il est nul. C'est un noir, ce gars-là, ou quoi? Ou c'est le ministère de l'Éducation, ou c'est qui, là?
C'était les études d'époque, hein?
Ben, c'est comme la théorie d'évolution humaine, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, parce que, tu sais, on regarde d'autres théories, des gens, ça évolue, je veux dire, on peut pas juste avoir cette théorie d'évolution-là, là. Il y a d'autres choses en entour de ça, puis on dirait qu'il n'y a pas d'upgrade qui sont faites sur ce qu'on enseigne dans les écoles. T'sais.
Non, il n'y a pas d'upgrade dans les écoles, puis il n'y en a même pas sur le plan scientifique encore là. Encore hier ou avant hier, moi, j'ai toujours dit que la vie dans l'univers existait parce qu'il y avait des planètes. Je me souviens de Frémont qui me disait, on n'a même pas la preuve qu'il y a d'autres planètes. Aujourd'hui, on le sait qu'il y en a, les exoplanètes, on prend ça à pelle.
C'est ça, puis à l'époque, ils disaient non, c'est ça.
Mais c'est ça. Les scientifiques, ils disent, ce qu'on pensait impossible est une réalité. Soudainement, on réalise que la vie multicellulaire existe depuis 1 milliard d'années, de plus que ce qu'on pensait. Ils se sont juste trompés d'1 milliard d'années, comme oups! 1 milliard d'années, la grosse erreur. Ça veut dire que moi, si j'avais dit dans les émissions Les Faits Maudits il y a 3 mois, saviez-vous que la vie multicellulaire existe depuis 1 milliard d'années plus vieux que ce que la science enseigne? Il m'aurait traité de fou.
C'est vrai, ça.
Il aurait dit, tiens, Cazot, encore ces affirmations qui n'ont pas d'allure. Sauf que 3 mois après, il aurait dit, oups!
T'avais raison.
Oui, ben je ne l'aurais pas dit parce que je ne connais pas ça, puis c'est pas mon domaine. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que faut jamais perdre de vue que chaque découverte scientifique est la preuve qu'ils avaient tort avant.
Bien, c'est ça. C'est comme de dire qu'il y a dans le temps qu'ils
alors, disent... ça, c'est le petit mononcle sur la route qui n'avance pas, là. Mais lui, il ne veut pas que je le dépasse. Lui, il ne veut pas que je dise oui, il y a de la vie intelligente dans l'univers parce qu'il va se retourner de bord. Puis là, c'est sûr qu'il va prendre le clos après. Mais il va se retourner de bord, puis là, il va me dire à moi, tu connais rien, tu n'es pas allé à l'université, tu n'es pas un homme de science, tu ne peux pas savoir ça, puis tu n'as pas de preuves. Non, mais je peux-tu penser, par exemple? Est-ce qu'on peut réfléchir?
Pas parce que tu n'as pas d'université que tu ne réfléchis pas.
Ben, apparemment, je regrette, mais c'est faux.
Ben là.
Non, c'est faux. Le culte, ça, ici au Québec, c'est très fort, ça. Le culte universitaire. Puis en France... Le culte universitaire, c'est fort, ça. Si t'as pas fait d'université, t'es juste bon à laver des planchers, là.
Mais malheureusement, c'est vrai que c'est comme ça. La mentalité est encore un peu
comme
ça.
Le premier gars qui a inventé la roue, il a pas été à l'université avant, par exemple.
Non, c'est ça. Alors, je veux dire, t'as une overreaction, là. Les gens surréagissent, pour parler français, les gens surréagissent à la culture universitaire. je respecte ça, la culture universitaire. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que ces gens-là reçoivent un enseignement, ils reçoivent tous le même, ils sont tous dans un même moule, et ça inclut pas seulement des connaissances. Si c'était juste des connaissances, pas pire. Mais il y a aussi une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de travailler à l'université, s'ils veulent avoir leur diplôme un jour, là, mm-hmm. s'ils veulent travailler dans le domaine qui les intéresse, comme biologiste, physicien ou astronome ou autre. Et s'ils dérogent de cette façon-là de penser, ils perdent leur crédibilité auprès de leur père. Comprends-tu ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
Alors, il faut, si tu es un astronome, il faut que tu restes un astronome dans ta façon de penser, pas juste dans tes connaissances.
Il ne déroge pas avec ce que tu as appris.
Et parler d'OVNI de façon positive, c'est déjà là, déroger de leur façon de penser. Alors, ils ne le font pas, et ceux qui le font se font exclure. Pas dans la vraie vie, parce que tu ne peux pas sortir quelqu'un de la science, là, mais ils se font exclure de la communauté scientifique. Alain Hynek y a goûté, Jacques Vallée y a
Jean-Pierre
goûté.
Jean-Pierre Petit.
Qui?
Jean-Pierre Petit.
Jean-Pierre Petit. Et plusieurs autres se sont fait sortir littéralement. Robert Charroux, des archéologues. Je ne sais pas lequel là, qui est au Québec, et Leclerc, hein, dénommé Yvon Leclerc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non, moi ça me dirait.
Lui aussi s'est fait sortir. Bref, tous ceux qui ont le malheur de sortir des sentiers battus de la science, c'est fini. Ils se font matraquer autant que les non-scientifiques qui font des affirmations aussi grosses que de dire qu'il y a de la vie, il y a de la vie dans l'univers. Mais moi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je ne disais pas qu'il y avait des extraterrestres sur Terre par déduction scientifique. Je le faisais à cause de ce que j'ai vécu. Fait que l'ayant vécu, j'avais pas le choix de réaliser que c'était ça, tu sais. Puis c'est après que j'ai constaté dans mes recherches que j'étais pas tout seul, puis qu'il y avait des témoins à la tonne et à la tonne et à la tonne, parce que dans mes années à moi, la littérature ufologique, elle abondait. T'avais Aimé Michel, t'avais Jimmy Guilleux, t'avais tous les Américains aussi, puis je lisais très bien l'anglais. Alors j'avais tous les rapports de l'armée de l'air américaine, puis du projet Blue Book, puis de Edward Ruppel, dont tu parlais mm-hmm. plus tôt. Je connais ça, ce monde-là. Chorale Lorenzen, puis ainsi de suite.
Justement, parce que ça faisait partie d'une de mes questions. Dans le temps que tu faisais de la radio, là, j'ai vu que tu as interrogé des personnalités très connues comme Trudeau, Lévesque et même Pierre Salinger, qui était à l'époque le directeur des communications à la Maison-Blanche. Mm-hmm. Est-ce que c'était dans le but ufologique?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Non.
Tu n'as jamais pensé à poser des questions justement à des...
Je l'ai fait à deux. Je l'ai fait au ministre Donald MacDonald, qui était ministre de la Défense. Dans le gouvernement Trudeau, je l'ai fait en conférence de presse à la base militaire de Valcartier.
Okay.
Et puis il m'a chassé de son champ d'intérêt comme si j'étais une mouche. sa réponse a pris 10 secondes. We have no interest in UFO. Next. Okay.
Hier, j'ai parlé avec un homme qui est retraité de l'armée, justement, puis je posais des questions comme ça à la va-vite, là, dans le sens de côté secret, top secret, etc. Il m'a classifié comme... Il était quand même assez... lui, il était obligé de signer un papier.
Ah ben oui.
Comme quoi, comme la plupart de tous ceux qui sont
dès dans... Dès que t'es militaire, c'est fini. Là.
C'est
tu
ça.
Tu peux plus rien révéler. Tu peux même pas donner l'heure à un civil. Tu
sais. C'est ça. Il y a ton confidentiel, comme il expliquait, puis ton secret, ensuite top secret.
Oui. Mais... Et puis il y a above top secret aussi.
Okay.
Above top secret.
Ah,
oui, c'est... oui. Above. Au-dessus plus, de
au-dessus top de... Secret. Mais tu vois, le top secret, pour moi, c'était vraiment le top.
Non.
En partant, là.
Non. Il y a plus haut que ça encore.
Ah bon? Il y a au-dessus du dessus.
Oui, puis il y a highly classified, puis il y a toutes sortes de... Puis il faut savoir à qui on s'adresse aussi, au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, là, parce qu'il y a trois dénominations différentes. Là. Mais above top secret existe au Royaume-Uni. Ça, je me rappelle plus son nom, là, parce que je l'ai oublié, mais en tout cas, on m'a expliqué ça, là, que ça, c'était vraiment là, au-dessus et que les UFO stories are above top secret.
C'est drôle parce qu'il me dit hier, en plus, que, tu sais, Paul Hillier, l'ancien ministre de la Défense,
oui, c'est ça.
Il dit, il passe pour un fou pour dire ce qu'il dit là.
C'est ça.
Mais ce que je vais te dire là, c'est vrai.
Oui.
Mais c'est juste qu'il laisse aller parce qu'il
j'ai
pense
eu un lieutenant-colonel. Moi, j'ai travaillé avec un lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes qui a été dépêché dans le Colorado à NORAD. Et sur place, il y a une équipe. Et la seule chose que j'ai su, c'est que tous ceux qui s'occupent du phénomène OVNI, mais qui ne s'appellent pas comme ça là-bas, c'est UO. C'est Unidentified Object, pas flying, mais object. C'est comme UFO, pas d'F.
Okay.
C'est des UOs, avec un S. Les documents et le mot de code est toujours précédé de Blue.
Ah.
Alors, le Blue Book, on s'en souviendra, en 48. Mais il y a aussi d'autres choses. Tu sais, ça peut être Blue Moon, ça peut être Blue Sea, Blue, ça peut être n'importe quoi, mais il y a le mot Blue dedans. Lui m'a dit que c'est ce qu'il avait noté dans les années 80. Tu sais, 80. Est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais c'est la preuve que le gouvernement américain a menti, parce qu'en 69, l'armée de l'air américaine a envoyé un communiqué de presse disant que suite aux investigations faites par la commission Condon, qui est une vraie farce, qu'ils mettaient un terme à toute leur recherche sur les ovnis. Donc, ils fermaient Blue Book en 69. Ils fermaient tout ça et qu'ils ne s'intéressaient plus du tout au phénomène ovni. C'est complètement faux. Parce qu'on a vu, puis encore récemment, on a vu des documents déclassifiés de l'armée de l'air américaine où ils traitent la question. Ça n'a pas arrêté parce qu'eux autres ont arrêté. Ils ont arrêté de le dire. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont arrêté de le dire. Pareil comme le projet Stargate où ils ont arrêté de le dire.
On va être obligé d'aller. Jean-François, fais ça vite. Oui. On va faire une petite pause. Ben, si t'as une question.
Ce que je voulais dire, c'est que quand on... Si, admettons, on travaille, admettons, on essaie d'interviewer admettons, une personne de l'armée, il faut aussi savoir comment les approcher. T'sais, tu vas pas les approcher en leur disant « Ouais, j'ai un cas venu. » Non, non, non. Il faut que tu parles le même langage que eux. Il faut que tu parles de « fast walker », il faut que tu parles de différentes appellations si tu veux te faire comprendre par eux.
Ça arrive souvent que c'est eux qui vont communiquer avec nous directement.
Ouais,
on n'a pas à courir après eux autres.
Sur ce beau belle petite parole de notre prochaine invité qu'on va avoir un petit peu plus tard, Steve Zuniga, on va à la pause et je veux vraiment qu'on parle des livres de Jean Cazot.
CJMD, le 96.9 à Lévis.
Le cinéma débarque encore une fois à Lévis pour la deuxième édition du Festival interactif de cinéma de Lévis. Vous aurez la chance de visionner des films de tout genre, assister à des conférences avec des pros, participer à des ateliers sur le cinéma et manger ben du pop-corn. Visitez le ficlfest.com.
ficlfest.com
pour plus de détails sur la programmation. Vivez l'expérience cinéma à Lévis du 17 au 19 mai prochain au cégep de Lévis. C'est un rendez-vous.
La niche à Luna, la niche à Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe-gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
La niche à Luna.
88-700-0600. Pour plus d'informations,
www.lanichaluna.com.
C'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
L'Inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous. Pour les petits et les grands, nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun, de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Sortez de l'ordinaire. Venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusitées. Vous trouverez le cadeau chez L'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com.
Je vous le dis, là, c'est pas un secret pour personne. Au Rina Saint-Romuald, du 950 rue de la Concorde, pour tout achat de 25$ ou plus, vous recevez un certificat cadeau de 10$ seulement en mentionnant CGMD. Hey, 10$ parce que t'as dit 4 lettres. Fais cher la lettre, là. Mais c'est seulement au Rina Saint-Romuald, 950 rue de la Concorde. Profitez-en, là.
Bonjour à vous tous, ici le capitaine Jack Sparrow. Je vous invite à la fête de la famille de Lévis les 9 et 10 juin au centre communautaire Le Carrefour, dans le secteur Saint-Rédempteur. Il y aura sur place des jeux gonflables, maquillage chromatique, yoga et zumba familial, un labyrinthe hanté, des canons mousse, les jeux de kermesse, les mascottes de la Pat-Patrouille seront là également. Pat-Patrouille, Pat-Patrouille. Plusieurs exposants seront sur place, ainsi que de nombreux spectacles sur scène, dont Dan Cowboy, Naomi Turcotte, l'affaire Ketchup et moi-même, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Il y aura aussi de la restauration à faible coût et des food trucks. Un cinéma en plein air sera sur place également. Les informations complètes se retrouvent sur le site internet fêtefamillelevis.com. La fête de la famille les 9 et 10 juin, présentée par la ville de Lévis.
Fêtefamillelevis.com.
Venez me rencontrer, Moussaillon. Je vous attends en grand nombre.
Voici un traiteur original et surprenant pour un événement privé ou professionnel. L'équipe de Cuisine du Marché, Cuisine de rue, à tendance carnivore, s'occupe de tout. Quel que soit le projet, le camion se déplace là où vos événements se déroulent. Cuisine du Marché Mobile Food Truck vous propose un menu personnalisé 100% Wagyu Québec et une équipe prête à vous servir qui s'adapte à tous vos besoins. Contactez le chef propriétaire Hugo Bernier au 418-836-5999 ou visitez cuisinedumarché.net.
CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
Jean Cazot, j'ai une question qui me chicote la tête depuis le début et ça fait un bout qu'on se pose tous la question probablement. Depuis 16 ans, depuis que tu as l'âge de 16 ans, tu fais des recherches en ufologie, puis j'ai remarqué ton besoin intense d'écrire depuis ces dernières années. Si je me fie à ton premier livre, un des premiers livres que tu as écrit en 98, si je ne me trompe pas, dialogue avec mon supérieur, il n'a pas été édité, celui-là?
Non, mon premier livre, c'est pas ça.
Non, un dans tes premiers livres, en 98.
OK, je pensais que tu disais que mon premier livre était en 98.
J'ai peut-être dit ça, mais c'est peut-être...
Oui, c'est ça que tu dis. Ben, okay. J'ai entendu, là. Premier, c'est en 72.
C'est en 72. Mais c'était quel, celui-là?
Ça, c'était « Manifeste pour l'avenir ».
Ah, je ne l'ai pas dans mon titre, celui-là, Manifeste pour l'avenir.
Ça a été suivi en 78 de Grande Alliance. Après ça, en 81, de Dossier OVNI au Québec. Après ça, j'ai eu un long silence. C'est revenu en 97 avec Les extraterrestres, que j'ai publié avec ma femme. Et puis après ça, ça nous emmène au dialogue avec mon supérieur immédiat.
OK.
J'en ai à peu près sorti une vingtaine.
Il y a Certitude ou Fiction?
C'est le premier de la série que j'appelle Québec Livre.
OK. Et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfants aussi?
Ça, il a suivi tout de suite après, c'est ça. Ça, c'est la série 2010 en montant.
OK. Ensuite, en 2011, tu as L'École invisible.
Oui.
Tu as aussi...
Ce dont je n'ai jamais parlé. Ouais,
c'est ça, ce dont je n'ai jamais parlé.
Les intelligences supérieures.
Ça se trouve être comme des trilogies, mais des suites à date.
En fait, ce qui se passe, c'est que Certitudes ou Fiction, quand je l'ai envoyé, il y avait 900 pages.
OK.
Puis l'éditeur trouvait ça long. Et il a trouvé ça long. Alors, c'est devenu 3 livres.
OK.
C'est-à-dire Certitudes ou Fiction, que j'ai coupé pour ensuite le finir. Après ça, j'ai continué, j'ai fait semblant d'en faire un deuxième.
qui était
ici, la Terre n'était qu'un jardin d'enfance,
okay.
Que j'ai fini comme s'il finissait, mais il finissait pas. Puis après ça, ça a été ce dont je n'ai jamais parlé. Je me suis servi de ce qui restait pour le starter, celui-là, et le compléter aussi. Alors, c'est la crise de folie qui s'est passée en 2010 quand on m'a dit de reprendre. le combat, tu sais.
Okay.
Parce que j'avais arrêté. Et là, on m'a dit de reprendre. Et j'ai repris, puis j'ai eu tous les signes qu'il fallait pour ça. Je sais, là, si c'est le temps de mettre des éclats de rire, là, c'est le temps, là. T'sais. T'sais, là, c'est le moment, là.
Non, mais moi,
t'sais, comme... Tu sais, comme au fond d'un comedy club, là.
Oui, oui, oui. Je peux te mettre un son de cricket
aussi.
C'est ça,
ou un son. Oui, c'est ça. Fait que tu peux mettre des sons, là. C'est le temps. Alors, moi, j'ai carrément reçu j'étais... Ah, Seigneur, j'étais assis dans ma chaise longue en avant. Je venais de perdre mes emplois. C'était fini, moi, je travaillais à la radio ici à Lévis, de l'autre bord de la rue ici. Bon, une autre histoire là, qui est arrivée, qui ont vendu, puis c'était devenu du hip-hop, puis ainsi de suite. Fait que moi, pas hip-hop, moi. Fait que ça n'a pas marché bien, bien. Alors, ils m'ont hip-hopé dehors, et j'en ai profité pour... du FTW, tu sais.
Mm-hmm.
Alors, je me suis installé à la retraite, j'ai pris ma retraite de la radio, puis ça s'est réglé là. Et j'étais assis sur une chaise et je prenais du soleil dehors. Et là, j'avais pas écrit sur les UFO, moi, depuis 10 ans. Et là, ça a été la folie furieuse. Là, j'ai eu des blocs. Je recevais des blocs. Alors, je rentrais chez moi. Puis, tu sais, un zip, tu connais ça?
Mm-hmm.
En informatique.
Mm-hmm.
Tu reçois un
fichier zippé.
Ça veut dire que tu le reçois, mais tu ne peux pas le voir. Faut que tu l'ouvres.
Oui.
Alors, moi, c'est la même chose. Je te dis, c'est la même chose. Je sais que j'ai un colis, je sais ce qu'il y a dedans, mais pour qu'il sorte, il faut que je l'écrive. Alors, j'écrivais 50-60 pages.
Ça allait tout seul.
Ça arrêtait. Je me levais, je disais, bon, ben, je vais retourner dehors. Moi. Là, je reprenais mon soleil, tu sais. Bang! Un autre colis qui arrive, par FedEx psychique. Je retourne à l'ordi, rouvre le second colis, puis ça redescend. Ça a fait 900 pages.
Et tabarouette! Ça, c'est-tu ceux-là, comme les intelligences supérieures que
t'as écrit
en 2012?
Non, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. C'est Certitude ou Fiction.
OK.
Ici la Terre, puis Sodom. Okay. Ça, c'est les trois livres qui ont sorti en un seul.
OK.
Ça a pris... 3 mois pour faire ça.
Eh, tabarouette.
3 mois.
C'est de l'inspiration.
Et ça, c'est parti chez Québécois. Jacques Simard, qui était à l'époque, qui était le patron là-bas.
Mm-hmm.
Il dit, Jean, c'est extraordinaire. Mais il dit, gars, je publie pas ça. Il dit, je suis malade. Fait qu'il dit, je te fais 3 contrats, puis fais-moi 3 livres avec ça, tu sais. Fait que je pense qu'il n'y a pas un auteur qui a signé 3 contrats en même temps chez un éditeur, là, mais en tout cas, moi, je l'ai fait. Et sont sortis Certitude ou Fiction, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. T'sais. Alors, et là, ça n'a plus arrêté depuis ce temps-là. Ça ne s'est plus arrêté. Et ça continue encore, bien que j'ai transité de l'ufologie à la métaphysique. Et là, je sors un livre en septembre que mon éditeur considère qu'il va être une petite bombe, qui est un livre contre les religions.
Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai hâte de...
Et qui va être très, très salé, merci. Mais
il
là, on n'est plus, plus dans l'ésotérique, on n'est plus... Là, on tape dans l'Ancien Testament, on tape dans l'Église catholique, on tape sur les écrits, sur les propos sur le Vatican, on tape sur l'islam, sur tout, là.
Oh.
Tout y passe, tu sais. Alors, c'est assez, mais c'est accablant. C'est accablant.
T'as pas peur de te faire taper dessus, justement?
Ben, je vais me faire taper dessus, oui, effectivement. Okay. Mais ça va être bon signe, ça veut dire.
Ben
que,
oui.
Non, mais si tu donnes un coup de pied dans un tapon de poêle puis qu'il sort un ours, ben, tu sais, au moins, ça valait la peine, tu sais. C'est pas un chat, tu sais. C'est pas un petit chat. Tu sais, qui sort, qui te passe entre les deux jambes, qui fait « tu sais, là, au moins, il te sort un « wow ». Là, il sort quelque chose. Là, ça vaut la peine de courir.
Tu as aussi écrit « Les intelligences supérieures » en 2012. Oui. En 2013, « Esprit d'abord, humain ensuite
oui. ».
2014, « La mort n'est qu'un masque temporaire entre deux visages ».
Ça a fait un best-seller au Québec.
C'est ça, puis c'est celui-là qui est réédité.
Ça a fait un gros best-seller au Québec.
C'est lui qui est...
Là, tu changes de char.
OK, mais c'est lui qui fait objet d'une réédition avec un changement de couverture, mais le contenu reste le même?
Oui, okay. C'est une réédition à la québécoise. Disons qu'il y a des endroits dans le monde où une réédition, ça implique revue et corrigée.
OK. T'sais.
Peut-être un jour. Si, mettons, là, dans 10 ans, il revient aussi fort. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu sors un livre qui se vend, ça fait vendre d'autres livres que tu as écrits avant.
Mm-hmm.
Mais des fois, ces livres-là sont plus à date, là. T'sais, sont obsolètes. Là.
Okay.
Alors, si tu veux le ressortir, là, il demande à l'auteur de le revoir, de le corriger, de l'adapter à 2000, de l'année que tu es rendu. Okay. Moi, je ne referais pas ça avec certitude ou fiction.
Okay.
Parce que c'est du vieux stock. Les gens sont écœurés d'entendre parler de Roswell puis de Condon.
Oui, c'est vrai.
Mais moi, il fallait que je le fasse, là. Mais c'est tout. Il a été réédité, lui aussi.
Tu as aussi Métamorphose en 2015. Et ensuite, L'ère nouvelle et oui. Les coulisses de l'univers. Il y en a un des trois, si je me trompe pas.
Les coulisses, c'est un roman.
C'est ça, OK. Ouais, c'est
une histoire bizarre, cette affaire-là. Ouais.
Mais c'est inspiré de faits vécus ou
non,
de...
Non, pas c'est du tout? Non, oui, mais c'est compliqué.
OK.
Puis je ne veux pas en parler parce que j'en ai un autre 100 fois meilleur que ça qui s'en vient, qui est un roman, mais un roman jeunesse.
Mais sur comme celui des révélations spectaculaires et sur les faits maudits en 2016.
Ça, c'est des rencontres spectrales, ça.
Est-ce que c'est des cas vécus de ceux que tu as invités à l'émission?
Non, ça n'a aucun rapport parce qu'il est sorti bien avant que l'émission commence. Je me suis servi du livre pour donner le titre à l'émission et non pas l'inverse.
Ah, OK.
Mais ce qui arrive, c'est que moi, j'ai voulu implanter dans l'ufologie une nouvelle classification. Si ça passe pas, who cares? Mais c'est l'idée que il y a les rencontres approchées du premier type, deuxième type, troisième type, quatrième, les RR4 qu'on appelle. Mais moi, je crois qu'il y a aussi les RS, que j'appelle des RS, des rencontres spectrales. Moi, je prétends que les expériences que j'ai vécues, je les ai vécues de façon spectrale.
Mm-hmm, c'est vrai.
Et non pas physique. Dans le sens que si... Le gars, il y a un extraterrestre au bout de son lit. Tu sais, un gris, là, un grand gris ou un petit gris ou whatever. Tu sais, j'en ai des dossiers comme ça, là. J'en ai des boîtes. Bon. Moi, je prétends, et c'est arrivé d'ailleurs, je prétends que si la mère de l'individu ou l'épouse ou le conjoint était rentré dans la chambre, il n'aurait rien vu.
C'est vrai. C'est vrai. Oui, je comprends.
C'est ça que j'essaie de dire. Il n'aurait rien vu, lui.
C'est ça. Uniquement, comme si la connexion se faisait seulement qu'avec toi-même.
C'est comme ce que j'appelle une capacité médiumnique spontanée.
Oui.
Une CMS que j'appelle.
J'aime bien ton RS.
Ouais. Les femmes, eux, ont des PMS. Moi, c'est des CMS. OK, c'est une joke, un plate. Mais ça reste que c'est combustion spontanée. Médiumnique spontané. C'est-à-dire que tu as une capacité soudaine de voir des choses qui sont dans une autre dimension. Alors, soit c'est toi qui y vas ou l'autre qui rentre. C'est un échange qui se fait. Je te dis pas que c'est ça tout le temps, à chaque fois. Non. Mais la plupart des expériences extraterrestres et même ufologiques, écoute, quand le gars te dit qu'il voit au-dessus de l'autoroute 50, là, ou quelque chose du genre, un immense objet. Immense!
Mm-hmm.
Mais qu'il n'y a pas un char qui arrête.
C'est comme si eux ne le voyaient pas, là.
C'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, alors, les ufologues de l'époque, ce qu'ils faisaient, ils disaient, il est fou, ils ne s'en occupaient pas. Moi, quand ça m'a été dit la toute première fois, je me suis dit, attends donc, tu vois, Je vais prendre deux minutes, je vais te dire. La femme me racontait qu'elle voyait cet objet-là et qu'à un moment donné, elle a cru voir ou percevoir une espèce de vibration en forme de dôme qui s'est faite au-dessus. Puis elle dit,
j'en ai un quoi, comme ça.
Elle dit, à la minute que ce dôme-là a touché, il dit, j'ai arrêté d'entendre les bruits de la rue, les oiseaux, la vie de quartier autour. Parce qu'elle était à l'intérieur du dôme.
Exactement.
Elle voyait l'objet, elle voyait les êtres qui étaient là, mais elle n'entendait plus rien autour. Puis quand ça s'est relevé, tout est disparu en même temps. Ça veut dire que le monde qui passait dans la rue, il ne le voyait pas.
C'est spécial, ça aussi.
Elle le voyait sous le dôme. C'est pour ça que dans Révélation spectaculaire sous l'effet maudit, j'explique ça, cet aspect-là, que j'appelle l'effet de dôme.
Okay.
Puis je ne suis pas seul à en parler, parce qu'il y a une Américaine aussi qui en parle, puis elle appelle ça « the Oz factor
mm-hmm. ».
Alors, tu sais, ce n'est pas nouveau, là. J'invente rien et je suis convaincu qu'il y a un gros pourcentage d'objets. Et ça aide pas, ça, à faire comprendre le mystère OVNI. Ça aide pas, ça?
Non, effectivement.
Quand tu dis, oui, ça se peut que le gars le voit au-dessus du boulevard Charest, mais il va être tout seul à le voir. Ouais, on sait bien, tu sais.
Ben, c'est ça.
Tu sais, on sait bien.
Là, il me reste pas grand temps avant la fin de l'émission. On n'a pas entendu encore Steve, mais je veux mentionner par contre avant, il était une fois des humains et des extraterrestres. Ça a été publié en 2017. C'est ton dernier, celui-là.
Mm-hmm.
Mais tu parles aussi d'un livre pour enfants que tu veux faire.
Ben, c'est pas pour enfants, c'est un roman jeunesse, là, les 15, 16, 17. Là. C'est très audacieux. Et les jeunes s'embarrassent moins. Écrire un roman pour adultes, faut que tu mettes toutes sortes d'affaires compliquées dedans.
Mm-hmm.
J'ai discuté de ça pas mal avec mon éditeur avant. Là. Et moi, ça a l'air que quand j'écris des romans, j'écris des romans comme un journaliste le fait.
Mais tu écris très bien.
Oui, je comprends, mais je ne suis pas un romancier. Comme Ludlum ou les grands romanciers.
Ouais.
Parce que j'ai pas la patience de mettre des. Moi, ça prend pas 3 semaines quand tu débarques du char puis tu vas aller au restaurant. D'un livre, ça peut prendre 20 pages. T'sais. Alors que moi, c'est tout de suite. Tu ouvres la porte du restaurant, tu rentres, tu t'assises, tu commandes, tu manges, tu sors. Mm. Ça, c'est ma façon d'écrire. Mm. Je le fais de façon journalistique. Et c'est pas romancé, ça. Mais par contre, les jeunes aiment ça.
Ben oui.
Et ça taponne pas, puis ça y va direct à l'action. Alors, c'est ça que je fais. Et c'est ça qui va sortir. J'espère. En tout cas, là, c'est entre les mains de mon éditrice.
Oh, c'est parfait.
Oui.
Je reviens 2 secondes. Je veux voir un petit peu avec... Je veux parler avec Steve Zuniga aussi, qui est ici. On va faire des chroniques, Steve, à l'occasion, qui s'appelle Fake. Dans les chroniques Fake, as-tu vu ça?
Oui, exactement.
On va mettre les liens vidéo sur la page Facebook de Zone Parallèle pour qu'on sache, que les gens sachent de quoi on va parler. Il y a tellement de vidéos qui circulent justement sur le web qui sont supposées extraterrestres ou des gens qui voient des fantômes ou des ovnis qui atterrissent. Patin, est-ce qu'il y en a beaucoup de ça?
Effectivement, c'est comme Jean, ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui décrédibilisent un peu l'ufologie, les témoignages, justement avec ce genre de montage-là, soit vidéo, montage d'images. Aujourd'hui, avec la technologie, l'ancienne technologie, c'était la lettre avec le papier. Aujourd'hui, avec un ordinateur, même un téléphone, une tablette, on est capable de simuler à peu près du n'importe quoi. C'est-à-dire surtout dans l'ufologie avec les vaisseaux. Un peu comme on s'avait déjà parlé au préalable. Dans le monde du 3D, les élèves qui veulent performer ou les examens finaux, c'est comme le sujet de l'heure à utiliser.
Ah, le test.
Exactement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ouais. C'est qu'ils vont faire une vidéo, ils vont prendre des images qui existent, ils vont superposer un vaisseau en 3 dimensions. Et vont tout simplement balancer ça sur YouTube.
Ça fait partie de leur examen.
Exactement. Donc, oui. Le buzz que ça va créer va déterminer un petit peu la note ou...
Qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser ça maintenant?
Exactement. Donc, c'est le côté visuel, c'est le côté sensationnel, parce qu'eux autres, ils visent quoi? Leur carrière au niveau de la télévision, au niveau des films.
Et ça, c'est quoi ton petit nom?
Moi, c'est Steve.
Steve. Ça, Steve, c'est tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas, ça.
Non, exact.
Parce que dans mon temps, non seulement il n'y avait pas d'ordinateur, mais il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas d'écran, c'était à peine si on avait 4 postes à TV.
Exact.
C'est le désert total, là. C'est votant flambant nu, c'est un île déserte, puis ça va ressembler à ce qu'on faisait. Alors, on n'était pas emmerdés avec ça. Et la seule chose, je veux juste rajouter ça, les seuls endroits où on avait des niaiseries comme ça, c'était des petits journaux. Style Photopolis, exact, ou Allopolis, jaune, la couleur du papier était jaune ou bleu.
Ouais.
Puis un, c'était minuit, je pense. Puis l'autre, c'était, je ne sais pas le nom, en jaune, mais c'était des affaires de même. Mais c'était, tu allais chez Dominion ou Steinberg, des noms de magasins qui ne disent rien, mais c'est l'équivalent de
Steinberg,
du Géo,
ça me dit que c'est encore un sac brun, Steinberg, chez nous.
Bon. Et là, quand tu regardes c'était au bout de la caisse. C'était ton choix, ça, de l'acheter ou pas. Moi, j'en ai acheté juste pour voir, pour constater que c'était de la cochonnerie. J'en ai plus jamais acheté. Les Américains ont ça, c'est National Enquirer, ça existe encore. Mais c'était la seule source de stupidité qu'il y avait. Il n'y en avait pas d'autre. Alors qu'aujourd'hui, c'est sur Internet. Ça... t'admettras, oui. Steve, que les sites sont aussi professionnels que CNN ou TVA, sont bien faits.
Oui. La façon de décrédibiliser aujourd'hui, là, c'est fou. Même, on pourrait juste parler, mettons, des cas de fraude. Dernièrement, ça en est l'enfer, là, via téléphone, via courriel, via beaucoup de médias différents. Mais aujourd'hui, la contrefaçon est tellement rendue facile, abordable pour n'importe qui. N'importe qui va se donner la peine d'écouter juste un petit vidéo tutoriel sur YouTube va être en mesure de changer ses briques, faire à peu près du n'importe quoi.
Bon, ben, c'est ça.
Donc, faire des montages vidéo, ça se fait assez facilement quand on est en mesure d'aller chercher les bonnes applications, comme là, avec les téléphones et les tablettes.
Tu sais, va-t'en Jamaïque, puis si tu veux des Rolex à 20$, moi, je t'en sors pour 10.
Oui. Ça se commande sur Wish.
C'est partout pareil. Les Nike, les pantalons, les marques, c'est tout encore. Puis même, tu vas au marché Jean Talon ici, là, à Québec, là, puis regarde. Have fun.
C'est ça, c'est vrai pareil. Mais tu sais, comme les applications qu'ils offrent aussi sur les cellulaires où ce que tu ajoutes un fantôme, il y en a beaucoup qui utilisent ça puis ils font croire. Mais c'est ces gangs de taouins, là, excuse-moi, là, mais c'est des taouins qui font en sorte que quand on parle de quelque chose de sérieux, on passe pour des caves. Ça, je déteste
D'un certain sens, oui. Par contre, tu sais, ça en reste aussi à nous de commencer à le décrier, d'en parler.
Justement,
parce que, tu sais, c'est peut-être des niaiseries, on essaie de pas trop perdre de temps là-dessus, mais c'est parce que tôt ou tard, si on veut faire avancer quoi que ce soit, il va falloir qu'on s'y attarde.
Des bons cons, ça.
Oui, exactement.
Parce que, justement, je voudrais que tu fasses des petits montages vidéo avec un ensemble qu'on va voir au pire, peut-être, là, aujourd'hui, on n'a plus le temps vraiment d'en parler.
Non, c'est ça, la façon que je veux procéder, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai des petites vidéos que j'ai vues il y a quelques années que je veux ramener parce que c'est des vidéos qui reviennent à toutes les deux ans. Donc, je veux essayer de vous faire un petit montage pour que les gens puissent voir déjà d'avance de quoi que je veux parler. Parce que c'est beaucoup du visuel, c'est des images. Puis si on n'a pas ce support-là, c'est un peu comme si je suis en train de parler dans le vide. Okay. Donc, ça va me prendre absolument ces petites choses-là. Mais il y a beaucoup de fraude là-dessus, même pour l'ufologie.
C'est
ça
même
nous...
pas de la fraude, dans le fond. Ils font juste s'amuser, les kids.
Oui, c'est des trolls qu'on appelle.
C'est des trolls. Pas, ils s'amusent, ils ont du fun. Ils font pas ça pour frauder. Ils font même pas ça pour qu'on y croit.
Ils ont du fun. Ça n'implique que moi que ma parole, mais je pourrais même dire qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Pour payer pour être capable de décrédibiliser certains sujets ou minimiser certaines informations ou tout simplement créer
c'est
une
russes.
Diversion.
C'est les Russes.
C'est les Russes, ça, c'est
les Russes.
C'est des satellites.
C'est les Russes.
C'est un avion.
C'est à cause du poison.
Là, avant qu'on se fasse kicker en dehors du studio, je vais être obligée de vous annoncer la fin de notre émission qui fut, ma foi, excellente parce que Jean Cazot...
J'aurais aimé ça avoir un temps pour parler, là.
OK, bien ça, faut que tu reviennes. Ça me ferait tellement plaisir. De toute façon, t'es chez vous ici, c'est ta place. C'est toi qui m'as emmené ici. Ben c'est ta maison aussi.
Tu fais bien ça.
Ben merci beaucoup. Ben tu m'as bien montré des bons trucs. Puis je pense que j'ai un bon prof aussi, il faut dire, là. Okay. Je passe-tu l'examen?
Ah, absolument.
Alors, Steve, on va se revoir, je ne sais plus la prochaine date.
La prochaine fois, je me semble que c'est dans deux semaines, trois semaines environ.
C'est ça, fait qu'on va avoir du matériel à montrer là-dessus.
En masse.
OK, fait que sur ce, je voudrais remercier nos invités d'aujourd'hui, Jean Cazot, Steve Zuniga et bien sûr Jean-François, qui n'a pas eu le temps vraiment de parler de lui non plus de son côté. La semaine prochaine, on va recevoir Raymond Choquette, ufologue, Ray Blais, Josie, l'évêque d'OVNI-PQ. Et Jean-François va toujours être là comme d'habitude. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Et dans quelques minutes, le podcast sera disponible après l'émission. Merci beaucoup tout le monde. Bye, à la semaine prochaine.
Merci.
Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. 96.9.
Dans la vie en général, les absents ont toujours tort. Sauf ici, à CJMD. Quand t'es pas là, tu brilles par ton absence.
Enjoy the music!
L'alternative radio.
Pour vos besoins en matière de sécurité, pensez
Sécurité Accès, basée à Lévis depuis maintenant 20 ans. Agence Sécurité Accès est la référence en matière de sécurité sur la Rive-Sud, également présent à l'échelle de la province. Marco Lefebvre, propriétaire et gestionnaire, assure un service de qualité en étant proche de ses clients comme de ses agents. Optez pour un service de sécurité personnalisé adapté à vos besoins, quels qu'ils soient. Entreprise aux divers services, entre autres.
Agence Sécurité, le premier soin d'unité canine, de signaleurs, de patrouilleurs et beaucoup plus.
Ils sont en recrutement constant en passant. Joignez-vous à l'équipe. Sécurité Accès, votre référence en matière de sécurité. www.sécuritéaccès.com. Sécurité Accès pour une protection répondant à vos attentes. 418-838-8804.
418-838-8804.